Bien, on va y arriver. Excusez-nous pour ces petites... Voilà. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, donc, on va commencer donc, par l'intervention de Mme Corrube, qui va nous présenter un dispositif Normandie 360. Et ensuite, chacun viendra et on restera collectivement sur cette table ronde, évidemment, pour échanger. Alors, je vous laisse présenter. Merci André. À vous, Madame Corrible.
Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, je suis ravie et je vous remercie de m'accueillir. Vous m'entendez bien ou...
D'accord. En plus, c'est pour l'enregistrement. Parce qu'on enregistre. Voilà.
C'est bon ? Voilà. Donc, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis effectivement une Normande. J'ai plus de 30 ans d'expérience au sein de grands groupes. Engie et Suez, au service des collectivités et des industriels. Donc vous voyez des postes assez différents qui m'ont amené, après plus de 25 ans, la création d'un réseau très important et très diversifié. Alors, j'ai quitté donc les grands groupes de mon propre choix il y a 2 ans pour créer une société de conseil, Action et Territoire. L'objectif de cette société de conseil, c'est conseiller les entreprises pour s'implanter en Normandie ou développer de l'activité en Normandie, pour le faire assez court, pour ceux qui y sont déjà ou pour ceux qui veulent venir. Et puis pour donc effectivement accompagner mes clients sur le territoire, j'ai développé, vous allez voir, une base de décryptage qui est mon outil de travail au quotidien pour expliquer la Normandie à mes clients et les aider à se décider et à bâtir une stratégie. Donc ce sont mes clients qui m'ont dit ne garde pas cette base pour nous, ouvre-la en accès libre à tout un chacun en Normandie qui en aurait besoin. Donc c'est vraiment eux qui m'ont... Donc ça c'était l'année dernière puisque je l'ai lancé en septembre. Et donc j'ai construit cette base que je vais vous expliquer. Donc l'essentiel même effectivement c'est le réseau complet que je me suis créé avec mes différents postes. Aussi bien responsable de centre de profit que mon dernier poste, c'était délégué régional du groupe Engie en Normandie. Donc, et bien évidemment, au fil de mes missions, et bien j'ai développé mon réseau. Donc aujourd'hui, je fais un décryptage complet sur l'ensemble des acteurs en Normandie. Je ne le fais que sur la Normandie. Donc, cet outil, il faut que vous compreniez que je l'ai pensé en tant qu'une patronne pour des patrons et des codires et des commerciaux. Hein, c'est vraiment l'idée de toute cette construction. Donc, j'ai voulu faire quelque chose de différent et qui n'existe pas encore aujourd'hui, évidemment. Donc mes clients me disaient, il faut que tu réfléchisses, ne nous livre pas un document qui au bout de 3 mois est obsolète parce que les gens ont changé, les projets ont déjà évolué. Et donc chaque année tu vas nous revendre quelque chose. Donc je suis allée voir une start-up et on a réfléchi comment mettre 24 heures sur 24 en accessibilité cette plateforme. Et puis que l'idée, la plateforme est très très lourde, mais l'idée ce n'est pas de lire continuellement la plateforme, mais c'est quand j'ai besoin d'une information, je vais sur le sommaire, je clique, je vais voir une mairie, je vais voir un industriel, je vais voir une zone, je clique et j'ai accès tout de suite à l'information sur un seul endroit. L'idée, c'est ça. Et puis, j'ai mis la barre assez haute parce que on me disait la mise à jour et j'assure une mise à jour de la base une fois par mois. Alors, c'est vraiment une base de décryptage, mais où j'agrège l'information. Donc, j'ai repris l'idée des super pouvoirs de la base. Le premier super pouvoir, c'est la mémoire vive, c'est-à-dire que je fais ce qu'aucun ne fait parce que ça ne serait pas envisageable. Sur tous les sujets, sur tous les sujets, j'agrège l'actu, c'est-à-dire que vous retrouvez des articles de presse synthétisés sur 6-8 mois. Donc vous allez sur un sujet, vous voulez dire, tiens, Canal Seine Nord Europe, vous en avez entendu parler en Normandie, où en est le dossier ? À la fin de ce dossier, vous retrouvez toute l'actu des 6-8 derniers mois, synthétisée, parce que les gens ont peu de temps, synthétisée, avec un accès à l'article complet, si ça intéresse. Donc, c'est vraiment ce que je fais sur tous les sujets. Et dans l'organisation donc, de cette plateforme, c'est moi qui fais la veille. Parce que si ce n'est pas moi qui fais la veille, je ne peux pas conseiller mes clients. Donc, c'est, voilà, donc on est bien rodé. Ensuite, j'ai tout organisé en sujet, enfin facile à retrouver, toujours dans l'esprit pour les patrons. Hein. Donc vous ne retrouvez pas, ce n'est pas un flux d'actualité, ce n'est pas une veille, c'est travaillé. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à ma petite mesure, je suis un outil d'attractivité du territoire. Parce que je mets en valeur l'ensemble des acteurs du territoire qui accompagnent l'entreprise, qui conseillent, donc on les retrouve. Vous retrouvez le site directement, vous retrouvez le président, vous retrouvez le DG, vous pouvez les suivre sur les réseaux Internet. En fin de compte, je mets en valeur tous ceux qui agissent sur le territoire. Ensuite, très facilement, vous retrouvez des cartes, vous retrouvez des données, des tendances, les filières. Je propose à mes clients, quand ils ont des présentations à faire, de récupérer une partie de mes slides. Par exemple, les banques sont assez intéressées. Quand elles font un dossier sur les ports, eh bien, elles récupèrent les slides sur tous les ports. Elles ont déjà matière et ça facilite leur présentation. Tout un certain nombre de cartes assez visuelles, de cartographie. Bien évidemment, je l'expliquais à madame, je mets en téléchargement directement accessible toutes les ressources intéressantes du territoire que je vais chercher, par exemple l'INSEE, évidemment, l'INSEE ou d'autres. Donc, en fin de compte, je fais ce travail d'aller chercher les choses effectivement, les intéressantes que les gens n'iraient pas chercher. Ensuite, effectivement, bah, c'est toujours l'idée des enjeux, des objectifs, des compléments de dossier. Par exemple, vous en avez entendu parler, récemment j'ai fait un dossier, j'ai toute une partie sur l'international, qui exporte, qui importe, qui vient en Normandie, qui investit en Normandie. Et évidemment, j'ai fait un dossier sur la Normandie et le Brexit, par exemple. Donc, l'effet coyote, c'est que là, vous retrouvez par secteur, par département, par activité, vous retrouvez tous les gens qui comptent et tous les gens influents. Et je les mets à jour. Ensuite, mais je vous présenterai autre chose. C'est toujours dans l'idée de faciliter la gestion des entreprises et des patrons. J'ai intégré dans cette base un agenda des grands événements en Normand à venir dans les 2-3 années qui viennent, de manière à ce que très vite ils puissent voir ce qui va se passer, comment je m'organise, est-ce que je vais être mécène, est-ce que je vais inviter des clients, mes salariés. Et puis évidemment, il y a les contacts directement pour, vous avez entendu parler de l'Armada qui va arriver l'année prochaine, évidemment, comment je m'y prends si je veux louer un bateau ou autre chose. Donc toujours l'idée d'être facilitante. Et puis sur simple demande, effectivement, les clients peuvent récupérer une partie des slides. Donc, la boussole, c'est le sommaire. Donc, j'ai réalisé ça en trois grands axes. Les projets stratégiques de la région Normandie. Vous retrouvez l'ensemble des projets dans le premier pack, c'est l'action stratégique de la Normandie. Vous retrouvez tous les grands dossiers de la Normandie, de ses infrastructures. Le deuxième, c'est l'activité économique. Je décrypte l'activité économique dans son ensemble. Et le troisième, c'est l'action publique. Donc c'est en ce sens que je suis 360. Je dis bien partout que ce sont les essentiels. Hein, mais bon, c'est lourd, mais c'est les essentiels. Et il doit sûrement manquer des choses, mais il y en a beaucoup. Donc l'idée, ce sont ces trois packs que je vais vous expliquer. Et j'ai aussi joué à la start-up et au teasing. Je propose sur le site, en version gratuite, en français et en anglais, un panorama de la Normandie, qui est accessible à tous et qui est mis à jour aussi une fois par mois. Et j'ai beaucoup de clients gratuits qui se servent déjà beaucoup du panorama. Par exemple, l'action stratégique, vous voyez, dans ce pack, vous retrouvez évidemment l'axe Seine, toute la transition énergétique et écologique, les grosses infrastructures de la région, les ports, et un axe majeur, tourisme et attractivité. Dans la partie économique, vous retrouvez, pareil, les grands acteurs de l'accompagnement, les financeurs, les investisseurs, Je vais vous montrer après, j'ai découpé 12 plaques économiques dans la région Normandie. Vous retrouvez les filières, les pôles de compétitivité, qui ne sont pas bien identifiés des acteurs. Tout ce qui est nouvelle économie, économie circulaire, vous retrouvez tout ça dedans, parce que je suis la seule en Normandie à intégrer les nouvelles économies dans l'économie. L'écosystème numérique, aujourd'hui, on ne sait pas trop s'y retrouver, donc je l'ai aussi détaillé. L'innovation, la recherche, quand mes clients veulent développer des projets, je les incite à se rapprocher des centres de recherche et du monde académique. Donc, il faut qu'ils soient là. Et évidemment, il y a toute une partie sur l'export et l'international. Ça, c'est le pack éco. Donc, par exemple, vous voyez, les plaques économiques, on se repère vite. Quelqu'un me dit, tiens, je vais m'implanter sur Alençon, j'ai des enjeux à Caen. Tout de suite, on va sur la plaque. Dans la partie publique, c'est un petit zoom, je mets aussi, évidemment, dans la partie publique, vous allez retrouver, donc ça, c'est mon point de vue, mais c'est les gens qui bougent, les gens que l'on voit. Vous retrouvez tous les services de l'État, vous retrouvez les députés, les sénateurs, la région, les départements, les pôles métropolitains et toutes les intercos. Et donc, je retravaille par zone et par plaque, vous voyez ? Et évidemment, la métropole de Rouen, qui est une très, très grosse métropole. Pour chaque zone est faite de la même manière. L'objectif, c'est dans les plaques économiques, vous y retrouvez les sièges sociaux, les plus grands acteurs, les plus gros chiffres d'affaires, les gens qui comptent, les projets privés. Je synthétise les projets privés de la zone. Parce que ça, jamais personne ne synthétise. Vous dites, tiens, il va construire un bâtiment, il va faire quelque chose. Et là, vous avez l'historique sur 6-8 mois. Si vous avez besoin d'événements de début d'année que j'ai retirés, évidemment, je récupère la base. Donc vous retrouvez les gens qui comptent et les projets privés. Ça, évidemment, c'est très important pour mes clients. Vous retrouvez aussi, quand par exemple la région ou d'autres acteurs investissent dans des startups, vous retrouvez qui a investi et combien dans quelles startups, c'est aussi important. Côté public, vous retrouvez effectivement toutes les intercos. Elles sont complètement décryptées avec les élus, les gens qui comptent, quels sont les projets, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans les années qui viennent. Et puis une actualité et des prises de parole, vous retrouvez tout ça. Et évidemment, les projets privés de la plaque. Les projets publics, pardon, de la plaque. Donc, des élus. Vous voyez, par exemple, ce sont les 17 comme de plus de 50 000 habitants. Et j'ai un petit zoom aussi pour les plus petites. Mais c'est celle-ci que je détaille beaucoup. Et puis, pour rappeler donc à mes clients, eh bien, mes clients, chaque fin de mois, je leur envoie une newsletter avec les informations essentielles à retenir du mois. Et puis, je leur explique, parce que vous voyez que c'est très lourd, je leur explique les gros dossiers que j'ai retravaillés par PAC. Par exemple, j'ai retravaillé l'axe Seine ce mois-ci, je leur mets, j'ai retravaillé l'axe Seine. Il y a un intérêt, j'y vais pas, mais je le sais. Hein. Et puis, je rappelle effectivement qu'ils peuvent me contacter, avoir des numéros de téléphone, les slides s'ils le souhaitent. Je leur mets chaque mois. Et la base est traduite en anglais. Les démonstrations de chacun des packs est aussi en anglais. Voilà, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais l'outil est très souple. Aujourd'hui, les clients m'ont dit moi, je veux l'action stratégique et l'éco. Parce que moi, je travaille avec les entreprises. Moi, mes clients, c'est plutôt le secteur public. Donc, je veux la stratégie et le public. Je veux surtout, les deux plus gros packs, vous imaginez bien, ce sont l'éco et le public, ils me disent, moi je veux ces deux-là, et pas la stratégique. Ou alors je veux tout. Ou je veux l'ensemble des trois. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, et puis je fais des formules spéciales pour les startups et les petites PME, parce qu'elles n'ont pas accès à ça, elles n'ont pas les gens autour d'elles pour les aider, pour aller rechercher l'information. Donc je travaille avec les filières, avec les CPME, pour effectivement leur donner effectivement des tarifs spéciaux. Parce que ça, c'est dommage qu'ils ne puissent pas en bénéficier. Voilà. Et puis, vous imaginez que cet outil, qui était fait pour le monde de l'entreprise, eh bien aujourd'hui, il intéresse aussi bien le secteur public, parce que le secteur public, il a une vision complète de ce qui se passe sur l'économie. Donc voilà. Mais mes clients, c'est aussi bien le privé que le public, alors qu'à la base, c'était fait pour des acteurs privés. Voilà. Donc, ça fait un an que ça tourne. On est vraiment bien, bien rodé avec mon équipe. J'ai aussi envie, enfin aujourd'hui parce que c'est bien rodé, ça marche bien, j'ai aussi envie, si vous identifiez dans d'autres régions des acteurs qui seraient intéressés par ça, je suis preneuse de les aider, j'ai l'outil, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la méthode. Voilà. J'irai pas moi-même parce qu'on ne peut faire ça que là où on est bien implanté. Donc évidemment, j'imagine que ce sont des gens qui, ce sont des profils qui connaissent bien à la fois l'industrie et les collectivités. C'est plus simple, quoi. Voilà. Voilà. Pour juste un petit clin d'œil parce que ça a mis l'outil en valeur. J'ai dans le cadre de l'association Les Femmes de l'économie. J'ai reçu un trophée il y a 10 jours, la femme digitale en Normandie, grâce à cet outil. Voilà. Et puis, alors, là, c'est en avant-première, parce que je suis venue vous voir aujourd'hui, mais je lance une nouvelle application web cet après-midi. Et ça aussi, ça peut se dupliquer dans toutes les régions. J'en rêvais depuis 3 ans, et donc ça s'appelle ProNormandie. À l'époque, quand j'organisais des événements, et c'est encore toujours le cas aujourd'hui, les événements dans une région se chevauchent. Tous les soirs ou toutes les semaines, on est invité à beaucoup de choses. Donc, et j'ai trouvé la start-up, j'ai créé une start-up avec une start-up au mois d'août, donc je suis une start-upeuse. Et nous lançons donc cet après-midi l'application ProNormandie. Dans cette application, l'objectif, c'est que les acteurs, mais là, elle est déjà bien nourrie, puisque c'est moi qui est allée la nourrir pour qu'il y ait déjà évidemment beaucoup d'événements qui soient dessus. L'objectif, c'est que les entreprises, les acteurs, quelle que soit leur activité, qu'ils soient publics ou associations, aillent inscrire leurs événements de manière très facile. Donc, quand vous allez choisir une date pour faire un événement, vous regardez, ah mince, oui, oh, ben, ça m'ennuie pas parce que c'est pas ma cible, c'est pas ma thématique, c'est pas le même endroit, ok, mais j'y vais quand même. Donc, ça va permettre plusieurs choses, ça va permettre d'éviter ça, ou au moins, si on le fait, on le fait en conscience. Donc, je dis, comme ça, vous réussirez vos événements. Dans cette appli, Quand vous allez aller rechercher des événements, ou planifier une date et rechercher une date, je vais vous mettre, et ça y est déjà, je vous mets tous les événements nationaux ou internationaux qui seraient de nature à réduire la fréquentation de vos événements. Par exemple, le Salon des maires. Bon, c'est facile, mais le Salon des maires, ah mince, je vois le Salon des maires en rose qui ressort. Bon, mais je ne choisis pas parce que je voulais inviter des élus à l'inauguration ou porte ouverte de mon entreprise, c'est pas la peine, ils ne seront pas là. C'est Las Vegas. Ah mince, Las Vegas. Mais ils sont tous partis à Las Vegas. Enfin, tout le monde va à Las Vegas pendant 3-4 jours, donc ce n'est pas la peine de faire quelque chose pendant cette période-là. J'y mets aussi les vacances scolaires. J'y mets aussi les journées nationales, par exemple la journée de la femme, la journée de l'environnement ou la semaine de l'environnement. Ah tiens, la journée de la femme, je ne vais peut-être pas faire quelque chose ce jour-là parce qu'on va me demander d'intervenir sur le territoire et d'être présente. Voilà, donc je décide. Donc c'est ça que vous pourrez faire. Et aussi, donc c'est à la fois réussir ces événements pour mieux les planifier, éviter les superpositions et d'annuler au dernier moment, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de frais engagés, mais aussi, de la même manière, permettre à l'ensemble des acteurs de la Normandie d'avoir connaissance de tout ce qui se passe et pouvoir s'inscrire et le mettre à son agenda. C'est ça qui est très important. Parce qu'il y a à la fois réussir ces événements, mais être aussi, soyez au bon endroit, au bon moment. Et la plupart des entreprises et des acteurs ne reçoivent jamais d'invitation. Et ils se disent, ah tiens, quelqu'un lui dit, mais vous venez demain là? Ah ben non, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est ça l'objectif de l'appli que je lance cet après-midi. Bien autre chose, mais voilà. Et puis l'idée aussi, quand j'aurai bien lancé en Normandie, eh bien, c'est de le dépliquer ailleurs, puisque ça n'existe pas non plus. Voilà. Je suis à votre disposition.
Merci. Merci Fabienne Corruble. Donc est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision? Et vous vous présentez, puisqu'on enregistre.
Yvette Lazéry, ex-Marseille Université. Juste une petite question pour bien comprendre. Vous avez développé un algorithme pour récupérer toutes les données, ou c'est vous, avec votre bâton de pèlerin, vous allez à la pêche aux informations?
Pour Normandie 360. Alors, pour mon Normandie 360, pour récupérer les infos, effectivement, je me suis bâti plusieurs outils, mais ça ne suffit pas. Parce que même si j'ai des bons outils, ça ne suffit pas. Donc je suis quasiment abonné à toutes les newsletters qui tournent. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Donc je complète. Alors parfois, mais j'ai 2 éditorialistes qui ne travaillent pas pour moi. Et parfois, j'ai des informations qui arrivent. Et puis une semaine après, un autre journal les sort. Et bien on améliore, vous voyez. Donc on revient plusieurs fois sur l'information parce qu'on a eu des... Tiens, qui a gagné le concours d'architecte? Qui a gagné ceci? Moi, c'est ça qui intéresse. Donc... Au départ, je vois le lancement du projet parce que je suis très en amont. parce que l'idée, c'est que j'identifie les projets avant qu'ils sortent, vous avez bien compris. Le projet, il vit, et au fur et à mesure, je viens agrémenter. Mais non, ça serait trop simple si les algorithmes suffisaient. Hein. Ça serait trop simple.
D'autres questions, d'autres remarques? Sinon, j'invite Cécile Calais à venir nous rejoindre. Mais vous restez à la table, Fabienne, s'il y a des questions dans le débat ensuite. On retombe sur nos pieds, si j'ose dire, après quelques difficultés de départ, mais on y arrive. Donc Cécile Calais, à qui je vais laisser le soin de se présenter, qui vient aussi de Paris, je pense, et qui nous vient sur les conseils avisés d'André Brouchet parmi nous. C'est grâce à lui si on a tous ses contacts, donc on le remercie. Donc je vous laisse la parole. Vous pouvez vous présenter en attendant.
Merci, bonjour à tous. À droite, à gauche. Okay. Peut-être une entrée radicalement différente. Mon parcours est assez, atypique, on peut le dire comme ça. En tout cas, mes centres d'intérêt. Je m'intéresse à trois axes, les questions politiques, les questions économiques et les questions culturelles. Et je cherche, parce que je suis chercheur et agrégé d'art, j'enseigne l'art, et parallèlement je suis chercheur, à trouver les articulations possibles entre ces trois domaines. Donc, toute ma formation a tenu à cette rencontre entre des domaines qui, normalement, ne se fréquentent pas habituellement. Hein, plus précisément, ce qui m'intéresse vraiment énormément, c'est de trouver réponse aux mutations dans lesquelles nos sociétés sont entrées par la mondialisation et la révolution numérique et les nouvelles technologies. Voilà, donc c'est un travail de recherche assez long, parfois difficile, mais la particularité, je pourrais la résumer comme cela, c'est le fait d'avoir enseigné. Donc d'avoir eu en responsabilité des jeunes gens, des jeunes générations, et parallèlement avoir pu appliquer mes recherches dans le monde économique, dans les entreprises, par le biais de workshops ou d'interventions, conférences, etc., et dans le monde politique. Voilà, ça enrichit énormément à la fois mes recherches et mes questionnements, et ça apporte réponse. Alors, j'espère que je vais être dans les temps, parce que je n'ai pas chronométré, donc vous me faites signe si je suis en dehors du temps. Donc l'intitulé de mon intervention, c'est « Vers une société créative ». Et André, très justement, m'avait fait remarquer que l'articulation des trois domaines, ce que vous nommez, d'après l'intitulé « hybridation », je préfère parler d'articulation, était particulièrement enrichissante pour trouver réponse aux problématiques amenées par la mondialisation. Donc je rappelle juste rapidement que cet avènement d'une société créative a été annoncé dès l'an 2000 par l'OCDE. Alors, est-ce que nous sommes entrés dans une société créative ou pas? Il y a des réponses qui peuvent être différentes. En tout cas, on voit une nécessité de répondre aux impacts de la mondialisation qui touche, et ça vous le savez bien sûr, les modes de vie, les modes d'être, les organisations, les individus et les territoires. Donc la réponse que moi j'amène, c'est une réponse qui utilise tout particulièrement la créativité et la créativité artistique. C'est-à-dire, comme je suis agrégée d'art et passionnée d'art, j'ai trouvé par le biais de l'art des réponses à ces questionnements. Et vous allez voir, c'est très intéressant, même si ce n'est pas simple, parce qu'il y a différentes échelles. Hein. C'est-à-dire, quand vous vous adressez à des étudiants, ce n'est pas la même chose que quand vous vous intéressez à des dirigeants d'entreprise ou des politiques. Mais l'art, en fait, il y a une telle richesse de l'intelligence de l'art, une telle richesse, la puissance de l'art, qu'il y a des réponses extrêmement pertinentes et efficientes. Ça, c'est une œuvre de James Turrell. Donc, je vous donne pas obligatoirement une indication sur les images, mais n'hésitez pas à me poser des questions après. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les questions que vous allez me poser. Alors, voilà pour résumer un petit peu mon travail. Donc, saisir les articulations entre ces trois domaines et voir. Alors, ça, c'est ce que dit très justement Bruno Latour, qui est chercheur Sciences Politiques Paris, il dit qu'en fait, on est entré dans une forme de crise de la représentation. Cette crise, elle est systémique, elle touche plusieurs domaines, l'économique, le politique, le culturel et le social. Et pour y répondre, il faut trouver, en tout cas, il faut solliciter les disciplines artistiques de la même façon qu'on solliciterait les disciplines scientifiques pour trouver réponse et les questionner. Donc Bruno Latour, par exemple, a créé le pôle art et politique à Sciences Po Paris. Il est maintenant à la tête du Media Lab. Enfin, je pense que vous avez tous entendu parler de Bruno Latour. Il a publié un bouquin récemment, Où atterrir, qui est un bouquin assez à la fois passionnant et aussi un petit peu inquiétant de par les sujets qu'il soulève. Alors, la créativité, pourquoi ? Je ne vais pas rester trop longtemps sur cette diapositive, plutôt sur celle-ci. En fait, ayant été sollicitée par différentes structures, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des responsables du World Economic Forum, et donc en particulier Klaus Schwab, son fondateur, la responsable économique aussi. Et il s'avère que s'il y a bien une compétence clé de main, c'est la compétence de la c'est la créativité. C'est vraiment par là qu'on peut apporter réponse à cette révolution numérique, au problème de la mondialisation. Et donc la créativité dans les territoires, c'est pour ça que je trouvais que votre titre était très intéressant, est vraiment l'axe majeur pour apporter réponse. Donc ça, c'est les top 10 des compétences demain. On voit, demain, c'est déjà presque passé. On voit que la créativité arrive en troisième position. En première position, la résolution des problèmes complexes et la pensée critique. Donc à partir de cela, ça m'a beaucoup intéressée parce que j'ai construit toutes mes réponses, autant adressées aux politiques qu'au monde de l'entreprise, qu'au monde de l'enseignement, voire aussi au monde de l'association et des structures, mes propositions autour de cette importance demain de mettre à jour ces compétences, des compétences qui passent par la créativité. Qui peuvent être déclinés, hein, bien sûr, mais qui pour moi est fondamental. Alors, pour reprendre le titre, essayer d'être assez clair sur la manière dont je travaille, quatre façons de développer la créativité que moi j'ai, en tout cas ce que je développe, dans les lieux d'enseignement, étant agrégé d'art, donc j'ai eu des jeunes étudiants, dans les entreprises, parce que je monte des workshops. En général, à partir d'expositions d'art contemporain, donc ensuite, c'est-à-dire j'installe des œuvres d'art et ensuite je mets en place des workshops avec des dirigeants d'entreprise, directeurs de communication et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les salariés, les collaborateurs, hein, c'est-à-dire aller vraiment s'adresser, en fait, globalement, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de m'adresser aux citoyens avant tout. Dans les structures associatives ou apparentées, donc là, moi, je suis vice-présidente de Coopcité, qui est une société coopérative et qui propose des tables rondes, des débats, des rencontres pour penser ensemble et concevoir des innovations, hein, sur le territoire, innovations politiques, sociales, culturelles. Et je suis aussi vice-présidente d'une villa. André était présent dernièrement, la Villa des Créateurs, qui opère de la même façon, hein, qui est en fait le lieu concret qui a été conçu par cette structure Coopcité dont je fais partie. Et troisième mode d'agir, au niveau des collectivités territoriales, donc là je vous présenterai rapidement un protocole qui me paraît très intéressant, qui est une forme d'innovation politique, qui est le protocole des nouveaux commanditaires. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un le connaît ? Parce que je trouve que je suis très étonnée que ça soit si peu connu. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, il intéresse énormément les politiques. Fleur Pellerin, d'ailleurs, elle avait sollicité plusieurs entretiens. Mais c'est vrai que nos politiques ont toujours du mal après à mettre en application sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont toujours très intéressés et après, c'est toujours plus difficile. Alors, la créativité, donc ça, je pense que nous en sommes tous convaincus, hein, elle a un impact sur le développement économique et urbain. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la créativité étant la compétence clé, l'importance, et la personne qui est intervenue précédemment travailler dans une entreprise, c'est vraiment maintenant de mettre au sein des entreprises, de mettre à jour les talents. Les talents, les workshops le font aisément, parce que par un workshop que je développerai tout à l'heure plus précisément, on va chercher les talents par le biais de la créativité, on les met à jour. Créativité, pourquoi ? Bien sûr, parce que on s'intéresse aux soft skills, donc ce sont des compétences comportementales. Avec le problème de la robotisation de l'emploi pardon, et de la disparition d'un certain nombre d'emplois, en tout cas, considérant que les emplois aujourd'hui, je regardais, je crois qu'il y a 65% des emplois qui existent aujourd'hui qui ne sont plus existants pour les enfants des classes primaires. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très important. Donc, bien sûr, la créativité permet de s'axer sur les compétences comportementales. Là, toujours un document du World Economic Forum que je trouvais intéressant. Donc, je ne vais pas rester longtemps, mais de toute façon, si les slides sont à votre disposition, ce sont toutes les sources d'apprentissage de ces compétences, donc des compétences comportementales qui sont en particulier socio-émotionnelles. Donc, vous voyez un petit peu comment apprendre ces compétences et ce qu'elles touchent, en fait. Adaptabilité, curiosité, créativité, collaboration, etc. Dans les entreprises, premier sujet, donc les enjeux. C'est vrai que à la fois c'est annoncé et voulu, c'est-à-dire qu'on nous dit très souvent la créativité c'est une compétence clé, il nous faut des créatifs, mais comment on fait pour les intégrer ? C'est une grosse difficulté en fait, les entreprises ne savent pas intégrer les créatifs. Je suis désolée, je suis un peu sévère, mais je l'ai vu et je trouve qu'ils ont beaucoup de difficultés, en France en tout cas. Donc moi, ma proposition, c'est de développer la créativité par l'artistique, par le biais de l'artistique. Et à chaque fois que j'invite des artistes dans les entreprises, je montre et en particulier, là, en ce moment, je travaille avec un responsable d'Open Innovation, comment les artistes peuvent challenger les responsables au sein des entreprises. C'est très intéressant d'ailleurs de voir comment ils sont challengés, voire dans un premier temps un petit peu, inquiétés. Par la liberté des artistes et la manière dont ils pensent leurs œuvres et ils les conçoivent. Mais c'est vrai que, par le propos suivant, ça booste énormément l'innovation, d'être en confrontation avec des créatifs qui ne pensent pas du tout de la même façon, qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon, et qui ne questionnent pas le monde de la même façon. C'est extrêmement intéressant pour eux. Et puis, donc ça, c'est... peut-être pour moi, une des priorités, c'est d'éclairer les dirigeants d'entreprise sur la nécessité de mettre en place un autre type de leadership, c'est-à-dire un management qui soit moins vertical, même si le mot ne me convient pas tout à fait, et beaucoup plus, on va reprendre peut-être l'expression de Michel Hervé, plus concertatif, en tout cas plus collaboratif. Et l'art est un excellent... modèle. Vous me dites au niveau des temps, 10 minutes, bon, ça va. Une œuvre d'une artiste, donc j'en dis peu de choses, mais Lily van der Stocker, mais vous n'hésiterez pas à me poser des questions après. Évidemment, quand un artiste intervient à ce niveau-là, c'est au niveau de l'architecture, c'est sûr que ça a un impact visuel et symbolique. J'insiste sur le symbolique, souligné trois fois très fort. Donc j'ai volontairement choisi cette œuvre-là, mais il y en a des milliers d'autres à choisir. Alors, l'art, pourquoi l'art ? L'art, ça c'est très important, et on le voit au niveau diplomatique, c'est un outil d'influence, soft power, donc évidemment qui sous-entend les soft skills. C'est un levier de performance, un levier d'innovation, et puis surtout, fondamentalement, il a un pouvoir pacificateur. Ça, je le vois... plus précisément quand je suis avec des étudiants d'art, et qu'il y a je les mobilise pour qu'ils mettent à jour leur démarche. C'est vrai que c'est une méthode d'enseignement qui permet un agir en commun, qui permet une réflexion en commun que n'amènent pas les autres disciplines. C'est aussi une manière de l'enseigner, un cours de mathématiques. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de mathématicien dans la salle. mais la spécificité de notre enseignement est assez... on fonctionne sur mode de proposition, atelier, c'est très, très ouvert. Voilà, c'est très ouvert. On est obligé d'être innovant. Hein. Sinon, comment dirais-je, notre enseignement n'est pas porteur. Hein. Donc on est obligé de renouveler nos pratiques. Voilà. Une œuvre de Lang et Baumann, donc sur le sol, questionne les circulations. D'un autre artiste, John Armleder, dans une entreprise. Donc, on l'a sollicité pour réaliser une œuvre collective qui a été pensée avec le personnel. Une sculpture de lumière de James Turrell, pour vous montrer l'impact. Là, c'est juste pour vous. C'est plus des œuvres qui sont des clins d'œil pour que vous questionniez, c'est-à-dire comment l'impact, en fait, de l'art sur les comportements, sur le bien-être, sur l'état d'esprit. C'est vrai que quand vous rentrez dans votre entreprise et vous traversez une sculpture de lumière, peut-être que vous êtes un peu différent quand vous entrez dans votre bureau. Les workshops que je mets en place dans les entreprises, alors trois phases, hein, mais c'est beaucoup plus complexe, hein, j'ai essayé de les simplifier. Très souvent, je suis obligée de présenter, de sensibiliser, parce qu'on parle d'art et en fait, on ne sait pas ce que c'est en entreprise, donc il y a une sensibilisation rapide. Ensuite, très vite, je fais témoigner un artiste, rentrer dans l'immersion de son œuvre. J'ai répété deux fois son œuvre, c'est pas grave. Et on passe à un atelier pratique expérientiel. Alors, dans nos sociétés contemporaines, moi je considère, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous n'hésiterez pas à me le dire, qu'il n'y a plus d'expérience réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'expérience qui amène un vécu. Hein. On est dans une société extrêmement rapide, où on est très engagé à consommer, mais très peu à expérimenter. Donc moi, ça, c'est fondamental. Je pense que l'expérience, et l'art, les œuvres précédentes vous l'ont montré, qui passe par le corps, a un impact beaucoup plus fort, hein, que n'importe quel type d'expérience. Et j'y reviendrai. Ça, c'est la spécificité de ma spécificité de ma démarche, tant au niveau de l'enseignement que dans le monde politique, qu'au sein des entreprises. C'est-à-dire que moi, je travaille à partir de problématiques sociétales. J'arrive dans une entreprise et je demande... on fait un sourcing et on va chercher la problématique et on essaye d'y répondre par les démarches artistiques, par un choix d'artiste ciblé, etc. Ça, c'est un exemple d'œuvre, donc je ne reste pas trop longtemps, mais on pourra en reparler de Mathieu Lehaneur. Donc des objets qui sont... là, vous devinez un petit peu, hein, l'intérêt de cet objet designé par Mathieu Lehaneur. Ce sont des objets en fait, qui pensent l'avenir. Donc, ce sont des réponses extrêmement pertinentes d'artistes, même si Mathieu n'est pas un artiste au sens strict, mais plus un designer. J'en ai parlé tout à l'heure, donc les structures au niveau... toujours pour rester sur l'intitulé de mon intervention, créativité des territoires, les structures associatives au sein desquelles je travaille, c'est-à-dire que je ne me contente pas de m'adresser aux politiques, je vais aussi sur le terrain, dans les petites structures associatives, et celle-ci est une structure qui prend son ampleur. Donc voilà, ce qui y est travaillé. Au niveau de l'enseignement, alors là, je suis assez fière, parce que j'ai une de mes élèves qui a eu récemment le prix Sciences Po pour l'art contemporain. Elle avait une œuvre très intéressante, Antisocial Social Club. Vous allez deviner peut-être ce qu'est son travail. Alors, attendez, je retrouve juste. Je voulais vous en dire deux mots, mais peut-être je vous en dirai deux mots après. Donc, Ève Chabanon. Alors, attendez une petite seconde que je me remette sur ma diapo. Donc son projet, en fait, l'idée c'était de discuter avec un échantillon représentatif d'une municipalité. Donc c'est une performance. Et la question qui est travaillée, c'est comment est-ce qu'on peut se gouverner soi-même, s'organiser soi-même, travailler et survivre ensemble. Donc elle a mis, était réunie un public qui devenait acteur en fait. Elle a demandé au public de prendre place sur les sièges des conseillers municipaux. Et puis, on a lancé une forme de débat, les deux processus de décision démocratique, donc comme une expérience vécue, avec des citoyens lambda, entre guillemets. Donc, très intéressant. Donc, elle a réussi cette année à avoir un prix Sciences Po pour l'art contemporain. Toujours Eve Chabanon, qui était récemment à la fondation d'entreprise aux Galeries Lafayette à Paris, aux Galeries Lafayette, pardon, aux Fondations Lafayette, qui est soutenue par les Galeries Lafayette à Paris. Donc là, Eve, elle fait un travail très intéressant. Elle s'est intéressée à la difficulté, voire à l'incapacité de l'artisan en exil d'exercer sa pratique. Donc elle a sollicité un stuccateur et elle a réalisé une œuvre avec lui. Donc cette œuvre-là, je vais vous la présenter. Donc là, on la voit au travail avec cet artisan migrant. Donc là, c'est l'impact de l'enseignement et sur les jeunes générations, c'est-à-dire par mon, comment dirais-je, mes méthodes d'enseignement, je les ai intéressés, en tout cas interpellés sur les problématiques sociétales, et à partir de cette interpellation et de ces questionnements, ils élaborent après des dispositifs avec des artistes et des œuvres pour à la fois questionner ces problématiques et trouver réponse. Donc là, en particulier, cet artiste avait évidemment une difficulté d'accès à des outils et un atelier. Et l'atout d'Eve, c'est d'avoir pu être financé par la Fondation Lafayette. Et donc son œuvre a été produite par la Fondation. Vous voyez, donc quand les jeunes artistes sont suffisamment efficaces de par leurs dispositifs et leurs réponses, ils arrivent à mobiliser des grosses structures. Et là, vous l'avez compris, évidemment, parce qu'il y a eu énormément de monde à l'exposition, il y a un très beau message qui est passé qui passe par la concrétisation de l'œuvre d'art. Alors, ça, c'est un autre atelier pratique que je mets en place au sein de la Villa des Créateurs. Donc, je vais repréciser un peu plus dans les autres slides. Mais l'intérêt, c'est que vous l'avez vu précédemment, quand une œuvre est réalisée collectivement, donc là, on l'a vu avec Eve et ce stuccateur, mais ça peut aller bien au-delà. Il peut y avoir, vous verrez tout à l'heure, une œuvre réalisée par une quinzaine de personnes. Elle met à jour... puisqu'une œuvre est une vision du monde, elle met à jour, pour le dire simplement, un certain nombre de questionnements qui sont porteurs et qui sont des éclairages sur comment répondre ce que je disais tout à l'heure, aux problématiques sociétales, qui sont, pour moi, encore 5 minutes, ok. Les problématiques sociétales, elles sont, je ne peux pas développer parce que je n'ai pas le temps, mais pour moi, elles sont surtout issues de la mondialisation, qui a un impact extrêmement, à la fois qui peut être intéressant, mais aussi extrêmement délétère sur certains territoires qui n'ont pas accès à cette mondialisation. Ça, on pourra y revenir. Alors, des questions que je me pose tout particulièrement, puisque tout ce qui touche à l'art et aux questions politiques en particulier, à comment redynamiser la démocratie m'intéresse, et comment les œuvres peuvent changer la société, comment intégrer les citoyens à la signature de l'œuvre, que les citoyens ne soient pas uniquement spectateurs, mais plus acteurs, et je crois que vous l'avez un petit peu vu là, en tout cas, vous avez vu quelques réponses, et puis comment comprendre l'articulation entre les interventions publiques, privées, entre le marché et les spectateurs. Alors, l'exemple du protocole des nouveaux commanditaires, donc rapidement, parce qu'il reste que 5 minutes, ce sont des citoyens qui passent commande d'une œuvre d'art à un artiste et qui, par le biais d'un médiateur, qui est sélectionné par la Fondation de France, permettent de faire œuvre et de passer commande à cet artiste. Donc, ces citoyens deviennent ce qu'on appelle des nouveaux commanditaires. Vous allez peut-être mieux comprendre, je vais vous montrer une œuvre de Mathieu Lehaneur, Demain et un autre jour, qui est une œuvre très intéressante. Qui est une commande qui a été passée à, donc au personnel de l'unité de soins palliatifs du groupe hospitalier, donc Diaconesse Croix Saint-Simon à Paris. Alors déjà, une unité de soins des soins palliatifs, c'était quand même un projet difficile pour un artiste. Un certain nombre de personnalités, de personnes de cette unité, donc des infirmières, des médecins, des patients, se sont regroupés ensemble, et c'est là l'intérêt, c'est-à-dire que il n'y a pas, enfin, je veux dire, ce ne sont pas les médecins qui décident, c'est vraiment un panel de gens, de citoyens, qui sont sensibilisés à la question artistique, qui posent une question, c'est-à-dire nous aimerions, pour l'unité de soins, avoir une œuvre d'art qui... Alors, c'était là, je vous lis la demande, qui propose de déjouer le cours inéluctable du temps en offrant à chacun, dans chaque chambre, un objet qui lui représente ce que sera le ciel du lendemain. Et Mathieu Lehaneur conçoit cette œuvre, une espèce de globe sur lequel on voit passer, c'est une météo du lendemain. Voilà, donc c'est extrêmement symbolique. C'est très lent, c'est à la fois très haptique et comment dirais-je, c'est assez émouvant en fait, parce que c'est voilà, c'est une très très belle œuvre. Mathieu Lehaneur, n'hésitez pas à me poser des questions après. L'intérêt, c'est surtout vous réunissez tout un collectif, infirmières, médecins, etc. Ils ne sont pas nécessairement d'accord, donc il y a du dissensus. Mais il y a quelque chose qui les relie, c'est la commande et puis cette capacité à faire œuvre ensemble et à construire ensemble un projet. Donc l'idée, c'est pas que tout le monde soit d'accord à un moment donné sur la commande, c'est-à-dire que ah oui non mais ça je veux pas du tout, ah non mais ça ça n'ira pas. C'est à un moment donné d'arriver à s'entendre par le biais de l'art, à apporter une réponse et à, je dirais presque, à réenchanter le monde par l'art. Une autre œuvre de Nathalie Grasset, donc ça aussi très intéressant, toujours penser sur ce protocole qui pour moi relève vraiment c'est ce que je le dis aux hommes politiques, bon, Fleur Pellerin l'avait, enfin elle n'est pas la seule, s'y était intéressée, pour moi ça relève vraiment de l'innovation politique, c'est-à-dire sur les territoires, la demande est faite en général pour des territoires ruraux, donc je pense que vous l'avez bien compris, un certain nombre de nouveaux commanditaires, de personnes se regroupent et deviennent nouveaux commanditaires et passent commandes. Donc ça, c'est Nathalie Grasset, une capsule. Donc les commanditaires, c'est l'association des colombophiles de Beauvois en Cambrésie. Donc on était passé commande d'un pigeonnier pour interpeller les nouvelles générations et leur donner le désir de continuer à faire vivre une tradition séculaire. Donc elle conçoit quelque chose qui est assez contemporain, mais en tout cas qui était en référence aux anciens pigeonniers de la... aux pigeonniers de la haute antiquité égyptienne. Donc ça, c'est intéressant parce que on n'oublie pas la tradition. Et ce pigeonnier évoque l'idée de départ, l'envol, d'une forme aérodynamique, très évocatrice d'un univers futuriste. Et un très beau support pour l'imaginaire, pour ces pigeons voyageurs. Les commanditaires, le médiateur, parce que chaque fois c'est donc un médiateur qui est choisi pour la Fondation de France, par la Fondation de France, et l'artiste qui lui, l'artiste qui est choisi en fonction du projet et de la demande. Donc ça, pour moi, donc je continue à travailler en politique avec des politiques. C'est vraiment une innovation extrêmement intéressante. Voilà, je crois que j'ai terminé. J'espère que j'ai été clair. Je vais peut-être juste... Voilà.
Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des réactions ?
Je vous ai fait taire. Oui. Merci de cette présentation. Vous évoquez l'art à travers l'œuvre de l'artiste, donc c'est très individualisé. Et comme à un moment donné, vous évoquez l'impact de l'art sur le développement économique et le développement urbain, je me disais, est-ce que vous intégrez aussi ces nouveaux collectifs qui sont plutôt dans les arts de la rue, qui co-construisent avec les citoyens pour essayer de définir en fonction des usages, des objets, des aménagements de places, de quartiers? Est-ce que vous intégrez ça aussi dans votre réflexion sur l'art ou vous le mettez de côté parce que...
Non. Ben, je l'intègre parce que comme je fais partie de structures associatives, de sociétés coopératives, évidemment qu'on travaille avec eux, bien sûr. Donc c'est complètement intégré dans ma démarche, dans ma recherche. Après, ça vient aussi peut-être de mon cursus et de mon parcours. Quand vous dites, je vais revenir sur votre remarque... Vous avez associé l'œuvre d'art et le fait que ça soit individualisé. Ça, j'ai pas bien saisi. Qu'est-ce que vous entendez ?
Parce que derrière, on voit James Turrell, enfin, on voit systématiquement un auteur, voilà, un artiste identifié. Alors que aujourd'hui, les pratiques des arts de la rue, on n'est plus dans l'œuvre. Et donc on n'est plus dans l'individu. C'est un collectif qui essaie de construire quelque chose qui change le regard, qui... mène à penser autrement et qui retravaille les pratiques, l'usage avec les citoyens. Donc c'est une autre forme d'art.
Ben, en fait, j'entends ce que vous dites, mais je trouve que c'est les deux. Je vois pas d'opposition, puisque je vous l'ai dit. Là, par exemple, c'est un collectif d'artistes Cubogaz. Ils ont fait une œuvre pour la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, qui demandait. En fait, c'était une œuvre d'art qui devait faire. Comment dirais-je, est emblématique des valeurs citoyennes et du respect de l'environnement qu'elle portait. Donc là, ça veut dire qu'il y a œuvre réalisée par un collectif d'artistes avec un territoire, une collectivité territoriale, des associations présentes, puisque l'œuvre, je vous l'ai dit, ça relève toujours du protocole des nouveaux commanditaires. Donc c'est discuté en commun. Donc c'est pas parce que comment vous dire, ce qui serait gênant, c'est d'essayer, et moi c'est vraiment mon discours, de cloisonner et de faire des catégories. C'est-à-dire qu'il y a les artistes importants d'un côté, les artistes émergents de l'autre, et puis les associations. Enfin, voilà, donc moi j'ai une approche systémique, donc je ne pense pas les choses séparément. C'est-à-dire que quand je conçois des workshops, des expositions d'art contemporain, j'ai des interventions où j'enseigne à des jeunes étudiants, Je ne sépare pas par catégorie. J'ai toujours du mal à penser comme cela. Et là, ça mobilise tout un tas de réseaux. Il n'y a pas de séparation. Et quand j'enseigne à des étudiants qui ont 18 ans, je veux dire, parfois ils font une œuvre ensemble, ils sont 10 à faire une œuvre et pour répondre à une demande d'une petite ville ou d'une commune. Vous voyez, donc si c'est ce que vous avez... entendu, bon, c'est pas la réalité. C'est vraiment, c'est pas du tout. J'ai répondu.
Bien. Une question et une présentation.
Eh bien, justement, André Brouchet, accélérateur de connexion fertile. Et je vois une connexion fertile dans l'œuvre Hullabaloo, qui, vu comme ça, bon, on se dit ouais, bon, d'accord. Mais je l'ai vu en action.
Mais oui,
et je l'ai vu en action justement à la Villa des Créateurs il y a quelques jours. La Villa des Créateurs dont a parlé Cécile, qui est animée aussi par Thierry Vincent, qui est bien connu de diverses personnes. Bref, et Hullabaloo était présenté en fond avant j'allais presque dire l'atelier de Michel Hervé, qui a duré 5 heures quand même, 5 heures de dialogue avec une vingtaine de personnes. Michel Hervé, dont j'ai parlé hier, du groupe Hervé, avec l'économie concertative. Et voir le Hullabaloo en mouvement, parce que imaginez que chacun de ces éléments bouge d'une manière plus ou moins aléatoire. Et j'ai retrouvé ça hier après-midi, lorsque on a vu les diatomées se balader sous l'œil du microscope avec des diatomées cueillies dans le Clain, la rivière de Poitiers. D'un seul coup, j'ai dit, tiens, c'est comme Hula Baloo, ces diatomées qui sont des mini-êtres plus ou moins unicellulaires, qui sont des êtres vivants. Et donc, entre le virtuel de cette œuvre qui est présentée et les diatomées, j'ai vu tout de suite une connexion fertile en quoi? En connaissance, en ouverture. Et pareil, en ouverture sur de nouvelles formes d'économie, comme par exemple l'économie concertative de Michel Hervé.
Ah, merci beaucoup Hervé. Mais c'est que j'ai pas assez de temps aujourd'hui. Mais en fait, cette œuvre est en mouvement. Hein, c'est une fresque digitale. Et elle, donc c'est ce sont des paysages qui sont constitués de formes qui naissent par des rencontres d'individus. Alors, des individus, c'est des petites choses qui ressemblent à des papillons ou des algues, etc. Il faudrait qu'on puisse aller sur Internet, mais bon, on n'a pas assez de temps. Mais vous pourrez la regarder, hein, il suffit de noter Hula Baloo, vous la trouvez très facilement sur Internet. Et, donc c'est une forme d'organisation visuelle, avec des coopérations, des collaborations, mais uniquement au niveau des formes et des couleurs, et qui fait un parallèle, une résonance avec, qui faisait ce jour-là avec le management concertatif de Michel Hervé, parce qu'on voit comment on peut faire des liens entre une organisation humaine et une organisation visuelle. C'est très intéressant, il faudrait la regarder sur Internet, on n'a pas le temps, mais juste peut-être pour clore, en deux secondes, la manière dont fonctionnent les artistes, dont ils collaborent entre eux, dont ils produisent leurs œuvres, de par leur démarche, est un très bel exemple de leadership créatif. Et en fait, quand on creuse un petit peu leurs intentions, leurs démarches, on peut vraiment éclairer les nouveaux modes de management. Voilà, c'était ça, en fait, l'idée. Hein, c'est de faire un parallèle entre eux, ce qui est donné à voir et ce que l'on peut mettre en œuvre au sein des organisations.
Merci, Cécile Calais. Je sais que vous avez des problèmes, des contraintes de déplacement, donc on peut vous libérer en même temps. Et je vais appeler Yvette Lazéry. Donc, on a commencé par la Normandie. On va continuer par le Sud. Enfin, tu nous diras le nom, l'intitulé de la région, d'ailleurs. Voilà, Yvette, qu'on connaît bien et qui est déjà venue plusieurs fois ici à Poitiers.
Donc, je suis Yvette Lazéry de l'Université d'Aix-Marseille, de la région Sud-PACA. Alors, pour le moment, ça reste Sud-PACA, ça devrait devenir région Sud. Enfin, bon, voilà, on ne sait pas trop encore exactement, mais en tout cas, ça ne s'appellera plus région PACA. Donc, je voulais vous présenter un mur d'initiative. Alors, pourquoi un mur? Parce que vous allez voir, c'est un ensemble de petites images qui reconstituent des briques, et donc le tout formant un mur. Donc, qui a été développé par Eric Carroll, qui est un informaticien de notre équipe. Et donc cet outil a été développé dans le cadre d'une étude que nous conduisons avec le conseil régional de cette région sud, et qui vise à comprendre un peu ce qui se passe sur ce territoire, sachant qu'on est un territoire qui bouge beaucoup, qui attire beaucoup d'entreprises, qui attire des entreprises de l'extérieur, mais en même temps, il y a beaucoup de création d'entreprises. Il y a beaucoup d'universitaires. Donc, il y a des croisements, je dirais, fertiles qui se font dans cette région. Et c'est vrai qu'au fil des années, on voit émerger de nouveaux modèles d'affaires, des choses qui n'existaient pas il y a une dizaine d'années et qui sont en lien avec ce contexte de mutation sociétale dans lequel nous évoluons. Et donc, la région nous a demandé de comprendre, enfin, si on était en mesure de montrer que ce territoire était un territoire en mouvement et quel mouvement se manifestait. Et donc, on leur a proposé, entre autres, de voir un peu, de prendre un peu la température de toutes ces initiatives qui naissaient sur ce territoire de la région, sachant que c'est un territoire qui est quand même extrêmement divers, parce que à la fois on a une façade maritime, mais en même temps on a aussi des montagnes et des zones de plaine. Donc c'est un territoire qui est à multifacette sur le plan géographique et qui se retranscrit dans les modes de production et de consommation. Et donc nous avons décidé de récolter des initiatives. Alors initialement, on leur avait dit on va essayer d'identifier des initiatives, une centaine d'initiatives dans la région qui nous paraîtraient un peu phares, des évolutions qui apparaîtraient. Donc sachant qu'il s'agit d'initiatives économiques, et donc dites innovantes. Pour les repérer, on est allé fouiner un peu à la fois sur les sites internet, on a fait jouer les réseaux divers et variés pour repérer à la fois dans les dispositifs de la région, des chambres de commerce, un peu tout ce qui bénéficiait de trophées d'innovation. Et puis en même temps, aussi dans notre réseau, par le bouche à oreille, ce qui émergeait. Donc ça nous a permis de récolter, finalement, on est allé bien au-delà de notre engagement, puisqu'on a récolté non pas 100 initiatives, mais 400. Et donc on a utilisé à la fois ce que je vous disais, un peu donc à la fois le réseau, et puis on a lancé une enquête auprès des 950 communes de la région en les sollicitant, en disant, le maire, son équipe était au courant d'initiatives, soit portées par la collectivité ou soit des activités qui sont nées sur leur territoire et dont ils ont connaissance, et bien de nous en faire part. Donc tout ça nous a amené à identifier 400 initiatives. Donc une fois qu'on avait tout ce matériau considéré comme innovant, et aussi quelque part responsable, parce que donc on a quand même filtré ces innovations. Donc vous verrez après. Donc on s'est dit, on va essayer de les typer en se disant, quels sont les critères qui vont nous permettre de dire c'est quoi cette innovation, qui porte ces innovations, et puis quelles sont les contributions de ces innovations par rapport aux objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU en 2017, et puis par rapport à ce qu'on a appelé des externalités, c'est-à-dire des retombées potentielles de ces initiatives. Donc on a décrit ces initiatives à travers un certain nombre de critères, bien évidemment. Donc on a l'intitulé de l'initiative, donc sa localisation, l'année de lancement. En général, c'est dans une fourchette relativement récente, puisque par définition, c'est des activités dites innovantes. Donc en général, on est sur 2013-2018. Quel type d'économie concernée? Alors là, on s'est retrouvé un peu enfermé par une demande de la région, qui est un découpage de ces services en économie de proximité, économie circulaire et économie numérique. Alors, tout simplement parce que ça tient à l'évolution de l'institution. On a eu un président qui était qui était le maire de Nice, qui était très versé numérique. Et donc il avait un grand discours sur faire du tout numérique, et donc il a créé un service économie numérique. Il y avait un service économie sociale et solidaire qui existait du temps de l'ancien président de conseil régional, qui était plutôt à tendance socialiste. Et puis un service qui est nouvellement créé, qui est le service économie circulaire, parce que ça devient un peu le grand discours du nouveau président de cette région. Donc du coup, on a un découpage et qui finalement on démontre que ce découpage finalement n'a pas trop de sens, parce qu'on voit bien que la plupart des initiatives, elles sont souvent à cheval entre proximité circulaire, proximité numérique ou numérique circulaire. Enfin, c'est un résultat, mais en même temps, donc il faut faire face aussi, il faut répondre aussi à une demande. On a repéré un certain nombre de porteurs qu'on a regroupés sous les intitulés d'associatifs, collectivités territoriales, entreprises, groupements agricoles, établissements publics, des secteurs industriels concernés. Donc là, on a retenu un découpage basique de l'INSEE. Et puis on a identifié chaque initiative par le contenu de l'action. Donc on a identifié 38 mots-clés et donc chaque initiative est identifiée par ce mot-clé. Et ensuite, on a donc un contenu un peu plus détaillé de l'initiative où là encore, par un certain nombre de mots-clés, on va essayer de dire cette initiative. Par exemple, si on est sur la gestion des déchets, est-ce que ça va être plutôt dans le recyclage? Est-ce qu'on va être vraiment sur la valorisation du déchet? Est-ce qu'on va être sur la mutualisation de la collecte, etc. Donc, on a construit cette base de données. Voilà quelques résultats rapides, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, au final, on s'est rendu compte que dans le découpage de ces initiatives, ou beaucoup d'initiatives, on est allé à la pêche. Hein, donc le hasard fait qu'aujourd'hui, on a parmi les initiatives, on a 40% qui relèveraient de l'économie de la proximité, un tiers qui relèverait du circulaire et 26% qui relèverait du numérique. Il s'agit vraiment de grandes dominantes, sachant que, je redis, ce découpage est largement remis en question. Donc ensuite, après, on a le portage des initiatives en fonction de ces domaines repérés, où on voit que l'économie circulaire ou l'économie numérique est plutôt portée par le secteur d'entreprise plutôt que par le secteur associatif ou de collectivité territoriale. Et là, en bas, vous avez donc le nuage de mots qui identifie donc les actions qui sont portées par ces initiatives. Bon, là, vous avez les initiatives qui contribuent aux objectifs de développement durable, sachant qu'il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU en 2017. Alors, même si ces objectifs de développement durable semblent plutôt profilés pour les pays en développement, néanmoins, ils ont vocation à s'imposer à tous les États de la planète. Donc, chaque État devra les intégrer dans leur stratégie de développement durable. Et donc, on s'est dit, finalement, c'est peut-être intéressant, à l'échelle d'une collectivité, de voir un peu quelle est la contribution de cette collectivité par rapport à ces différents objectifs. Donc, on voit que l'objectif 12, consommation et production responsable, est l'objectif qui apparaît majoritairement. Ensuite, donc, parmi les externalités, parce que finalement, décrire ces initiatives, c'était bien beau, mais bon, ça allait pas très loin. Donc, on s'est dit, ce serait peut-être intéressant d'aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire au regard du type d'initiative, même si on n'est pas en capacité d'en mesurer réellement les retombées, parce qu'on est sur des initiatives qui sont très récentes. Néanmoins, de par leurs objectifs et la réalisation de leurs actions, eh bien, on peut apprécier, je dis bien apprécier entre guillemets, donc de façon très qualitative, apprécier quelles sont les retombées potentielles. Et comme ça, on a défini 4 grandes familles de retombées, environnementales, sociales, territoriales ou sociétales, et qu'on a déclinées en 17 externalités. Donc voilà l'image que ça donne. Donc on voit que les externalités territoriales sont quand même majoritaires, avec près d'un tiers des initiatives, ce qui est quand même intéressant, parce que c'est quand même la base aussi de la constitution de notre base de données, puisqu'il s'agissait quand même de mettre en relief des initiatives qui potentiellement pouvaient avoir un impact sur le territoire, donc qui nous intéressait de révéler des initiatives qui avaient un ancrage local relativement important. Et donc, par ancrage local, on entendait soit parce qu'il y a des... parce qu'il y a des retombées en termes de création d'emplois, de démultiplication de l'initiative, de mise en valeur des ressources locales ou de contribution à l'attractivité du territoire. Donc, à partir de là, on avait cette base de données, donc un grand tableau Excel, et puis on s'est dit finalement, une fois qu'on a présenté quelques tableaux, images, graphiques tels que je vous l'ai présenté, ça fait très académique, ça intéresse pas grand monde. Donc on s'est dit, il faut quand même être un peu plus performance sur le plan communication. Et donc on a demandé à notre informaticien d'essayer d'inventer un outil qui permettrait de mettre en valeur ces initiatives. Et donc il nous a proposé ce mur d'images. Alors vous allez voir que chaque initiative va être illustrée par une photo. Que chaque initiative va être donc présentée avec les 10 critères que j'ai évoqués précédemment, et puis avec la possibilité, donc ça ce sera la prochaine étape, d'introduire des éléments complémentaires au regard de l'appréciation qu'on a fait. Et ces éléments complémentaires, c'est à la fois une fiche descriptive sur les initiatives, mais aussi c'est des sites internet où on parle de l'initiative, des articles de presse où l'initiative est évoquée. Enfin, c'est donc des liens qui vont être rajoutés par rapport à cette initiative. Alors, je voulais vous montrer ce mur. Oui. Alors, hop. Donc, voilà. Alors, d'où l'idée du mur, c'est que là, vous voyez toutes ces photos. Donc, ces photos, donc. Enfin, voilà, donne l'image un peu d'un mur. Et donc, chaque photo correspond à une initiative. Et donc, vous voyez sur le côté gauche, là, vous avez donc les différents critères que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, vous avez donc les trois types d'économie, vous avez les secteurs d'activité, vous avez donc la zone géographique, département, commune, les types d'actions par mots-clés. Alors bon, par exemple, voilà. Donc vous avez donc les 38 mots-clés que je donnais. Donc après, vous avez tous les mots-clés là qui vont identifier, qui vont donner du contenu à l'initiative, les structures porteuses, les domaines d'externalité, les quatre grandes familles. Et puis donc après, vous avez les externalités telles que détaillées que je vous évoquais tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple, vous voulez identifier les initiatives qui relèveraient de l'économie circulaire. Donc, vous avez une recomposition du mur avec toutes ces initiatives. Maintenant, vous voulez repérer les initiatives qui relèveraient de l'économie circulaire, mais qui seraient, par exemple, dans le département des Alpes d'Haute-Provence, qui est un des départements alpins. Donc, vous avez donc cette recomposition. Vous pouvez donc croiser des critères donc en fonction donc de ce que vous voulez un peu faire apparaître. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous avez une cartographie qui est associée à ces initiatives. Pardon, elle est là. Voilà, donc on peut plus ou moins. Et puis la cartographie, donc elle est dynamique, c'est-à-dire que si vous voulez une cartographie uniquement de l'économie circulaire ou uniquement de l'économie numérique, vous allez avoir une recomposition donc des initiatives sur le territoire. Alors, intérêt aussi, donc cet outil permet de faire des croisements. Donc cet outil permet de mettre un peu en avant un peu la localisation de ces initiatives. Et puis lorsqu'après on veut regarder chaque initiative, pardon. Donc par exemple, vous voulez, regarder cette initiative là. On va peut-être en prendre une autre parce que celle-là elle est particulière. Voilà, donc vous avez une solution clé en main de vélo électrique qui a été développée dans le département des Alpes-Maritimes. Et donc là, vous avez donc sur la droite de l'écran, vous avez toute l'identification de l'initiative. Alors, le type d'économie à laquelle appartient l'initiative, le secteur d'activité, le département, la commune, le type d'action auquel se réfère cette initiative. En l'occurrence, donc, on l'a identifié comme relevant de l'écomobilité. Ensuite, vous avez le porteur, le type de structure. Vous avez un descriptif après là de l'initiative, alors qui est un peu plus détaillé, qu'on a pris soit sur du site internet, soit en interviewant les différents acteurs. Et puis on voit donc après de quelle famille d'externalités elle relève, alors à la fois des familles et puis après des externalités proprement dites. Donc c'est un outil qui paraît relativement intéressant en termes de communication. Ça permet à la fois de mettre en valeur des initiatives donc sur un territoire donné. Et actuellement, la région le voit un peu comme cela. En particulier, le service économie circulaire le voit comme un support d'échange, c'est-à-dire c'est une façon de présenter, d'introduire un peu une discussion entre différents acteurs, que ce soit des entreprises, des associations, collectivités territoriales, pour parler d'économie circulaire en disant dans la région aujourd'hui, l'économie circulaire est repérée par un certain nombre d'initiatives et donc c'est intéressant d'aller fouiner un peu après dans ces différentes initiatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de ce mur qui reprend les 400 initiatives, il y a un certain nombre d'initiatives qu'on a considérées comme étant vraiment exemplaires et qu'on est allé fouiner, c'est-à-dire on est allé rencontrer plusieurs acteurs, à la fois quand c'est une entreprise, l'acteur, mais aussi son client et son fournisseur, c'est-à-dire on a pris la chaîne d'acteurs, de trois acteurs, pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de l'initiative, c'est-à-dire comment l'initiative elle a émergé et puis quels ont été les freins auxquels a été confrontée la structure, mais aussi quels sont les éléments de mise en dynamique qui permet à l'initiative finalement de marcher, peut-être d'être dépliquée à d'autres échelles territoriales ou être démultipliée sur le même territoire. Donc on a un travail après qui complète ce travail des initiatives, mais ce que je voulais vous présenter c'était ce mur parce que je trouvais que c'était un outil qui était intéressant de mise en valeur. Et puis je me rends compte, alors c'est peut-être pas vrai dans toutes les régions françaises, malheureusement, je soupçonne que ça l'est, mais on est toujours dans le cloisonnement institutionnel, malgré tous les grands discours de transversalité, d'interdisciplinarité, etc., y compris dans notre université. Et du coup, c'est un outil qui est intéressant parce que justement, quelque part, ça permet de capitaliser un certain nombre d'initiatives ou connus de plusieurs services. Et puis finalement, ça permet de mettre sur la table un peu tout ce qui se passe et de dire aux services, c'est pas la peine que vous allez chercher parce que cette initiative, elle est déjà identifiée par tel service. On a été confronté avec le service, à cette question-là, avec le service transport-mobilité de la région, où on voyait que le service économie circulaire avait quelques initiatives. Et puis de l'autre côté, il y a le service transport qui repérait aussi les mêmes types d'initiatives. On s'est dit, ça vaut peut-être le coup, qu'il y ait un panier commun qui permet de mettre en relief un peu toutes ces initiatives existantes. Et puis, ce que je trouve intéressant, on ne sait pas trop ce que la région va faire de ce mur, mais l'idée, ce serait quand même de pérenniser ce genre d'outils. C'est-à-dire, on se rend compte qu'aujourd'hui, les initiatives, elles peuvent relever d'acteurs multiples. Ça peut être un maire, ça peut être un technicien. On a une municipalité, par exemple, qui n'est pas loin d'Avignon, où il y a une technicienne qui était consciente que sur son territoire, il y avait énormément de problèmes, de difficultés financières. D'abord parce que c'est une commune agricole, donc il y avait un problème de paupérisation de cette population. Et elle s'était rendue compte par le bouche à oreille, comme ça, qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de mutuelle. Et parfois, ça les mettait dans des situations compliquées quand il y avait des maladies, notamment des maladies de longue durée. Et donc, elle a inventé. Elle a proposé au maire en disant tiens, il faudrait peut-être que la mairie mutualise à l'égard de ses citoyens une action auprès de mutuelles. Donc aujourd'hui c'est dupliqué un peu partout en France. Donc le maire, il a pris contact avec plusieurs mutuelles. Ils ont fait une étude du marché local, c'est-à-dire ils ont recensé tous les gens qui n'avaient pas de mutuelle et qui étaient prêts à aller à s'inscrire dans une mutuelle, mais en fonction d'un certain montant. Donc ils avaient plusieurs catégories de prix et ils sont allés négocier auprès de différentes mutuelles en disant ben voilà, on a X% de la population qui est prêt à aller dans une mutuelle, mais à condition que ça dépasse pas, j'ai n'importe quoi, 10 euros par mois. Et comme ça, donc il y a une mutuelle qui a été sélectionnée, mais la collectivité, on voit que la collectivité a joué l'interface. Et là, c'est même pas le maire qui a été à l'initiative, le maire a été le relais, mais ça a été vraiment un technicien de la municipalité qui a été porteur de l'idée. Et donc aujourd'hui, je vous dis, c'est il y a plusieurs collectivités qui ont repris cette idée en France parce que ça marche bien. Et donc on se rend compte que les porteurs de projets, et c'est là où on rejoint l'idée de créativité, c'est qu'elle est partout. Ça peut être l'individu lambda, ça peut être le gamin, ça peut être un chef d'entreprise, comme un ingénieur dans l'entreprise, comme une employée lambda. Et du coup, il faut aller chercher, comprendre, révéler un peu ces pépites. Et je trouve que cet outil, c'est une façon de faire ressortir ce genre d'éléments. Alors, par contre, le gros travail qu'il y a derrière, c'est d'aller à la pêche de ces initiatives. C'est-à-dire, c'est un peu comme vous, c'est-à-dire, à un moment donné, ben, il faut aller récupérer un peu dans les territoires, comprendre un peu ce qui se passe, et les apporter, les regarder, et puis les mettre après dans un outil comme cela. Mais en tout cas, je trouve que c'est une façon de révéler un peu le dynamisme, la créativité potentielle sur un territoire. Et cet outil, c'est une façon de mettre en valeur donc ces différents types d'actions. Et puis en même temps, ça peut aussi nourrir, parce que à partir du moment où après on va développer la description de cette initiative avec des éléments un peu plus fins, c'est-à-dire quels sont les freins, quels sont les outils qui ont été développés, ça peut être des outils de gouvernance, ça peut être des outils juridiques, financiers, etc. Donc on va aller plus loin dans le descriptif de ces initiatives. Donc ça peut donner aussi ça porte à connaissance et ça peut donner aussi de la réflexion. Enfin, nourrir la réflexion des acteurs qui seraient intéressés par développer certains types d'outils. Donc voilà, je pense que ça manque dans le territoire d'avoir des outils un peu de recensement et d'identification, description des initiatives étant toutes ces actions donc qui émane par ces acteurs divers et variés sur le territoire. Et je le répète, sachant que les initiatives, elles émanent pas seulement de la structure publique ou des entreprises, mais vraiment c'est du tout azimut. Et c'est ça qui est important à aller révéler. Voilà.
Merci Yvette.
Je vous remercie.
Merci Yvette, parce qu'en fait, ça correspond aussi à ce qu'on voulait faire cette année, c'est-à-dire c'est un début, hein, d'avoir un point, un contact par région de la... En France, on n'a pas tous les contacts cette année, mais c'est un début. L'idée, c'est l'an prochain d'avoir vraiment toutes les régions représentées sur cette idée, voilà, que la créativité, elle est un peu partout. Et justement, on va demander à Monsieur Rio de là, on décale encore un peu plus. Oui, les questions, j'y viens bien sûr, mais je permets à Monsieur Rio de nous rejoindre et après je laisse la parole pour quelques questions.
Donc Fabienne Corrub, Action et Territoire. Donc c'est une belle plateforme, évidemment, pertinente, parce qu'elle est assez large dans sa variété, elle permet des tris. La question que je me posais, c'est qui remplit ? Est-ce que c'est à l'initiative de celui qui présente l'initiative, ou est-ce que c'est une structure ? Chez vous, vous enregistrez tout ? Parce que ça change tout, et je vais vous expliquer pourquoi.
Oui, non, mais je suis d'accord. Alors, en l'occurrence, on a un marché avec la région, ce que je vous ai expliqué. Donc, c'était un marché pour prendre un peu le pouls de cette région.
Donc
on peut témoigner, voilà, que les choses sont en train de bouger. Alors du coup, la structure, c'est nous, c'est l'université d'Aix-Marseille, qui sommes allés, voilà, récupérer les informations. Mais l'intérêt, je pense, de ce truc, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce soit aussi alimenté par des acteurs, oui. Parce que toute l'analyse qui a été faite, c'est une analyse telle que nous on l'a faite. Alors c'est vrai que là où on a fait des rencontres avec des acteurs, il y a une centaine d'initiatives où les acteurs ont été contactés, donc il y a eu des allers-retours, donc il y a eu des enrichissements de l'analyse qu'on en a faite, mais on voit bien qu'à un moment donné, il faut aussi que ce soit eux qui remplissent, quoi.
Donc justement, nous, il y a une base en Normandie qui a été faite, surtout pour l'économie circulaire, mais bon, on aurait pu le faire plus largement. Peu de gens l'identifient, même s'ils ont fait un renfort de pub dessus. Et du coup, il y en a très très peu d'enregistrés, il n'y a quasiment rien dessus. Donc il y a une belle base, elle est jolie. Mais c'était à chacun de venir enregistrer son... Et puis les gens n'y vont pas. Donc du coup, il n'y a rien dans la base.
Ben, ce qui va dans le sens, c'est que à un moment donné, je vous ai dit, on a contacté les 950 mairies. Plus après les groupements d'actions locaux, etc. Enfin, toutes les structures diverses et variées qui se démultiplient un peu partout en France. Et au gré, je dirais, des changements politiques. Et ne serait-ce que sur les 950 municipalités qui ont été contactées, alors on avait fait une enquête numérique, on avait envoyé un courrier, donc au maire, au service communication avec le lien, on a eu 45 réponses sur les 950. Donc les gens n'ont pas envie ou ils comprennent pas. Enfin, donc du coup, à un moment donné, on s'est dit, ben, c'est à nous d'y aller, quoi. Sinon, on n'avait rien du tout. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème, ça, pour faire remonter l'information. Mais ça montre aussi, c'est que je pense que ça aussi, c'est un problème, c'est qu'il y a l'individu lambda ou l'entreprise a l'impression que la collectivité, finalement, s'intéresse peu à son action. Et du coup, ne voit pas trop l'intérêt. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ce lien entre la structure publique, la structure privée, pour qu'il y ait davantage d'interactions entre les deux. Mais c'est vrai aussi avec l'université. Hein. On est monolithique, cloisonné. Enfin, c'est affolant. Affolant, quoi. Enfin, moi, je...
une autre question, Yvette, ici.
Donc Benjamin Santiago, communauté de communes Vienne-Gartempe. Donc je trouve qu'effectivement l'outil est assez intéressant. J'imagine bien en tant que technicien notamment l'utilité qu'on peut en avoir. Après, par rapport justement à ce que vous avez dit, je me pose la question de la façon dont les élus au niveau région, département ou infra-département même, arrivent après à s'approprier ce type d'outil. Est-ce qu'il y a eu déjà un retour sur la façon dont eux pouvaient utiliser ça, sensibiliser sur les actions ou pas ?
Alors, il y a quelques élus. On se rend compte que c'est là où c'est les élus que déjà ils ont répondu à l'enquête numérique. Alors en particulier, c'est notamment une ville des Hautes-Alpes qui est Gap, où là ça bouge énormément. C'est un territoire. Il y a un maire qui est très jeune, il y a une équipe municipale qui se bouge. C'est un territoire qui attire des entreprises. Et donc, il y a de l'espace, il y a du foncier libre et pas trop cher encore. Donc, c'est un facteur d'attractivité quand même qui est assez intéressant. Et donc là, on a eu des retours. C'est-à-dire, ils nous ont dit, mais nous, on aimerait bien nous prendre, avoir ce mur pour justement, sur notre territoire, pouvoir l'utiliser et surtout l'utiliser, ce que je disais à un moment donné, comme support d'échange, c'est-à-dire voilà tout ce qui se passe. Alors nous, on n'en a révélé que quelques-unes d'initiatives, mais eux, leur idée, c'est avoir vraiment une photographie à 360 degrés qui montrerait que ce territoire, il bouge. C'est le principal. Après, il y a un maire aussi à Corinth, mais là aussi, c'est encore un maire qui est hyper dynamique, c'est un type, ça a été le premier à faire du bio en France, c'est un chef d'entreprise aussi. On sent qu'il y a cette double culture privée-public, et le gars, il a complètement senti l'intérêt en disant, mais aussi, c'est une façon de vendre mon territoire, notamment parce qu'il appartient à une intercommunalité, et que dans cette intercommunalité, ça s'essouffle un peu, c'est un peu le seul qui est un peu dynamique, et donc avoir des outils comme ça qui... Voilà. Mais peut-être, alors moi, ce que je pense qu'il y a le politique d'un côté, mais je pense qu'il faut. Je pense que les zones industrielles, tous les clubs d'entreprises qui peuvent être intéressés, parce que je pense notamment au niveau de l'économie circulaire, qui est un tournant dans lequel on commence doucement à s'inscrire. Je pense que c'est une façon, ce serait une façon aussi de montrer un peu tout ce qui se passe, qui peut marcher ou pas, parce que ça voudrait peut-être aussi de mettre en avant aussi ce qui n'a pas fonctionné. Mais ce serait aussi une façon de montrer aussi qu'il y a des choses qui se font et où on peut puiser de la réflexion.
Oui, Jean-Marc Neveu, donc CDA Développement. Merci beaucoup pour cette initiative. Et ça ouvre pas mal de possibilités. L'idée, ce serait de trouver, faire par exemple des recherches par mots-clés, hein, et pas simplement par catégorie, parce qu'on retombe dans les... Et à ce moment-là, on ouvrirait plus les choses. Quelque chose aussi qui pourrait être un peu dynamique, c'est-à-dire donner la possibilité aux gens qui visitent le mur d'apporter leurs commentaires, voire leurs choix même sur les initiatives. Et on pourrait à ce moment-là contribuer, ou la collectivité pourrait contribuer d'autant plus qu'elle attire un certain nombre de remarques positives. Et pourquoi pas imaginer ce mur à l'échelle, on va dire, comme l'image qui me venait, c'est le bon coin, le site marchand, mais le bon coin des initiatives en termes en France, où il y aurait à la fois du pro et pas du pro d'ailleurs, hein, et puis des gens qui seraient intéressés ou qui commenteraient un petit peu les choses. Voilà, c'est une manière de à mon avis, de mettre en lumière des signaux faibles. Hein. Et aujourd'hui, on voit bien à quel point la difficulté, c'est qu'il y a tellement de signaux qu'on a du mal à les mettre en œuvre. Mais du coup, le fait que les gens puissent interagir avec ce mur-là, ça pourrait aussi contribuer à les mettre en valeur et puis à donner de la dynamique, en fait, par rapport à ça.
Ça fait partie de... Alors, on est en cours dans l'étude, hein, donc nous, on n'a pas fini, on doit la rendre pour le mois de février. Ça fait partie des propositions pour pérenniser le mur, parce que moi, ma crainte de ce genre d'outil, c'est qu'on s'en va, la région a eu cet outil, puis bon, voilà, après, ça rentre dans les oubliettes parce que ils n'ont pas envie de l'alimenter, ou que bon, voilà, c'était quelques techniciens qui se sont emballés, et puis voilà. Donc, je ne sais pas trop. Mais donc, du coup, c'était c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce mur il sorte de l'institution pour être complètement à. Voilà, je dirais au service du territoire. Mais ça veut dire aussi qu'il faut aller au-devant des gens. Alors peut-être qu'il faut travailler avec les réseaux sociaux. Ça, j'avoue, moi, je ne suis pas capable de le faire. Mais bon, voilà, sur Facebook et choses comme ça, peut-être il faut arriver à travailler aller vers le public et amener aussi le public à interagir par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il voit ou ce qu'il entend. Je pense que c'est vrai que ce serait un truc super intéressant. Sur le plan à la fois communication, sur le plan, je pense, à la fois pour montrer aussi, porter à connaissance qu'il y a des choses qui se font sur les territoires, et puis montrer aussi qu'une collectivité, elle est en capacité de dire je me nourris un peu de ce qui se passe sur le territoire, donc j'ai besoin de vous. Pour le moment, ce n'est pas un discours que tient encore trop la région, parce qu'elle est très, très, très loin de l'usage et des usagers. Mais bon, c'est quelque chose qu'on va mettre dans le mur, dans les conditions pour pérenniser le mur, en disant qu'il faut qu'à un moment donné, que voilà, ce soit ouvert et ça interagit. Alors là, on est en train... on est en train de voir pour les questions de propriété intellectuelle, parce que Éric Carole est un ingénieur de recherche au CNRS. Donc le CNRS nous dit, nous on est propriétaire du mur, c'est même pas Carole, c'est le CNRS. Donc la région nous dit, mais moi je veux ce mur, je veux le mettre sur mon serveur. Et donc aujourd'hui, c'est est-ce que c'est l'université qui va rester donc du serveur, enfin l'université, donc CNRS. Pour moi, CNRS dit, moi c'est chez moi. Et donc la région dit non, moi je le veux chez moi. Enfin bon, voilà, on est dans ce genre de truc qui nous dépasse complètement, mais ça fait partie aussi des éléments qu'il faut travailler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, trouver les outils qui permettent que les institutions puissent davantage collaborer ensemble.
On va enchaîner si tu permets, André. Voilà, merci. Monsieur Rio, qui va nous parler de la Bretagne. Voilà, on va passer de Normandie à la Bretagne. Et sur un point de vue assez décalé, d'ailleurs, sur ce que c'est les chemins.
Allez, c'est... Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de mon parcours au propre et au figuré. Moi, je viens de la presse quotidienne régionale. J'ai dirigé une édition départementale dans un groupe de presse. Après, j'ai passé en presse hebdomadaire régional où j'ai géré un hebdo, puis en presse spécialisée où j'ai dirigé un magazine. Et j'ai pris, pour des raisons personnelles, j'ai pris ma liberté avec le salariat et je suis devenu indépendant. Toujours pour travailler avec un pied dans la presse magazine. Je travaillais il y a encore une quinzaine d'années avec une dizaine de journaux. Et petit à petit, je me suis éloigné de cette presse dite d'information pour me consacrer à l'édition et la passion qui m'animait, à savoir les chemins. Donc j'ai travaillé avec une demi-douzaine d'éditeurs pour concevoir des guides de randonnée. Et un jour, je me suis retrouvé Je me suis retrouvé pour concevoir un guide de randonnée au pied du Ménébré dans les Côtes d'Armor, en Bretagne Nord, pour faire un repérage de chemin. Et moi, j'aime bien marcher à la fraîche, donc j'étais parti tôt le matin. Et j'ai croisé un groupe de randonneurs sur le chemin. Et j'ai discuté avec eux pour savoir où ils allaient. Et puis, un peu plus tard, sur mon parcours, j'avais la chapelle Saint-Hervé au sommet du Ménévré. Et là, j'ai vu arriver les pèlerins qui arrivaient pour ce qu'on appelle en Bretagne le pardon, le pèlerinage annuel au sommet du Ménévré, à la chapelle Saint-Hervé. Et je me suis dit, là, il y a un décalage énorme entre les randonneurs qui ignorent le patrimoine bâti et aussi le patrimoine culturel, qui ne rentrent plus dans les chapelles, qui ne font que marcher, et puis ces pèlerins qui, eux, ne viennent plus à pied au sanctuaire, mais prennent leur voiture, et on a deux mondes qui s'ignorent, et pourquoi pas, effectivement, renouer les deux, à savoir faire en sorte que ces pèlerins qui viennent au pardon breton se remettent à marcher, comme Charles Péguy était parti à Chartres et avait fait un très très beau texte parlant de la cathédrale de Chartres qu'il voyait au loin. Et puis c'est donc ces marcheurs qui ignorent le patrimoine et pour leur ouvrir les portes des chapelles. C'est ainsi que j'ai conçu un guide pour Rando Édition qui s'appelait « Randonnée sur les chemins des pardons en Bretagne ». Où je donnais effectivement une cinquantaine d'itinéraires décryptifs et avec pour chaque sentier les référents de la chapelle, l'historique du pardon, les clés, le numéro de téléphone pour récupérer les clés de la chapelle parce qu'en hors saison elles sont toutes fermées. Et puis dans un second temps, j'ai avec l'association des amis du Trobrez, j'ai conçu le guide du Trobrez. Le Trobrez, c'est l'équivalent du Compostelle en Bretagne. C'est 1000 km, 47 étapes et environ 500 chapelles sur le chemin. Il faut savoir qu'en Bretagne, nous avons 6000 sanctuaires, chapelles et églises, ce qui nous fait le plus fort taux de sanctuaires d'Europe. Mais il nous en reste simplement qu'un tiers par rapport à ce que nous avions au début du 19e siècle. On avait 18 000 chapelles, il nous en reste 6 000. C'est énorme. Donc, pour faire vivre ce patrimoine, on a imaginé, notamment pour le chemin du Trobrez, littéralement Trobrez en breton, ça signifie le tour de la Bretagne. Donc c'est un pèlerinage qui date du 9e siècle, il est contemporain de Compostelle, il est cité dans le roman de Renard, il est cité dans la chanson de Roland, c'est effectivement un pèlerinage qui est daté du médiéval, qui relie ce qu'on appelle les sept évêchés de la Bretagne bretonnante, donc Vannes dans le Morbihan, Quimper dans le Finistère, Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère Nord, Tréguier, Côte d'Armor, Saint-Brieuc, Côte d'Armor, Saint-Malo-Ille-et-Vilaine, Dole-Ille-et-Vilaine et une transversale pour repartir de Dole à Vannes. Et donc ce pèlerinage, il a été relancé en 1994 par Philippe Abjean. Il avait un peu disparu des mémoires. On savait que quelques personnes le faisaient encore. Mais et quand Philippe Abjean, en 1994, est reparti avec quelques amis pour lancer le Trobrez, ils pensaient être 50. Ils étaient 500 au départ. Et aujourd'hui, cette année, chaque année, il y a 2500 personnes qui marchent ensemble pendant une semaine entre chaque EVC. Donc il faut 7 ans pour faire le tour complet de la Bretagne. Et donc le but, c'était de faire un guide individuel pour qu'on puisse le faire comme on voulait, en individuel, avec en famille ou avec 2-3 personnes, de janvier à décembre. Donc ce guide est sorti il y a 5 ans et il a été épuisé. On est en train de le refaire et on a la possibilité, effectivement, sur le site de l'association Les Chemins de Trobresse, de télécharger les mises à jour de l'itinéraire. Donc on peut estimer qu'on a chaque année à peu près entre 2 et 3 000 personnes qui le font en individuel. Voilà, donc c'était un autre guide que j'ai fait paraître pour effectivement la promotion de ce pèlerinage. Et dans la foulée, je me suis intéressé donc au renouveau de ce qu'on appelle les pardons en Bretagne, en publiant un autre guide, en reprenant pour la petite histoire, où à la fin du 19e siècle, un écrivain breton, Nathalie Lebras, avait publié un ouvrage qui s'appelait « Au pays des pardons », où Anatole Lebras, qui était instituteur laïque, écrivait que s'il voyait la fin de la superstition et du cléricalisme en Bretagne et qu'enfin les Lumières allaient pénétrer cette région obscure. Un siècle plus tard, Anatole Lebras a tout faux, puisqu'effectivement, les pardons, il y en a toujours. Et il y a des créations de pardons, c'est-à-dire qu'on avait les pardons des chevaux, par exemple, pour les agriculteurs. Les pardons des chevaux aujourd'hui continuent, mais ce sont des chevaux de selle, ce sont des chevaux qui sont montés par des cavalières, donc avec les bénédictions des chevaux dans les fontaines. Et puis on a les chevaux modernes, à savoir les motards. On a aujourd'hui le plus grand pardon breton, c'est le pardon des motards de Port-Carreau. On a entre 30 et 40 000 motards qui se réunissent pendant 3 jours pour cette manifestation, ce qui, en plus, vous rajoutez autant de personnes d'accompagnateurs. Donc on a quasiment 100 000 personnes sur certaines années au 15 août à Port-Carreau, qui est une petite commune de 1200 habitants qui se retrouve dans le Morbihan, qui se retrouve donc chaque année pour cette manifestation. Donc moi, je m'étais intéressé pour regarder l'aspect ethnologique, sociologique, histoire des religions, enfin des différents aspects de ce particularité des pardons bretons. Et ce travail que j'ai fait sur les pardons bretons, je suis assez content parce que ici, dans le Limousin, vous avez réussi à inscrire les sustentions au patrimoine immatériel de l'humanité, de l'UNESCO. Eh bien, depuis un an, on travaille en Bretagne pour aussi inscrire ces pardons bretons au patrimoine immatériel de l'humanité, en sachant que le pardon est quelque chose qui n'est pas forcément figé. C'est une manifestation qui est originale, puisqu'elle relève à la fois de la fête profane et de la fête sacrée. J'ai l'habitude de dire, quand je fais une intervention sur ce thème, le pardon breton, si c'était simplement une manifestation religieuse, ça serait une messe. Et si ce n'était qu'une foire profane, ça serait une kermesse. Mais ce n'est ni une messe ni une kermesse. C'est beaucoup plus que ça. C'est une manifestation qui remonte à une période de christianisation de la Bretagne, entre le 3e et le 10e siècle, et qui participe de rites de fondation qui sont en fait pré-chrétiens, basés sur les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais là, je ne vais pas vous faire une conférence sur les pardons aujourd'hui, ce n'est pas le propos. Mon objectif, c'était toujours d'expliquer, de partager et de transmettre un peu mon savoir sur les chemins et ce qui relie effectivement ces sanctuaires, les gens qui marchent et l'histoire. Donc je vais vous prendre quelques exemples, parce que de Bretagne, je suis sorti de mon périmètre et puis j'ai commencé à travailler sur le reste de la France en publiant un ouvrage qui s'appelle « Sur les chemins de France », parce que j'éditais aussi pour le compte des éditions Glénat ou Rando Édition ou Dakota des guides de randonnée sur l'Auvergne, sur les Vosges, un peu partout. Donc à l'occasion de ces guides, j'ai répertorié des chemins et je raconte ces histoires de chemins. Le but, quand je vois moi un guide de randonnée généralement publié par la Fédération française de randonnée pédestre, je suis toujours un peu frustré, moi en tant que marcheur, quand je vois que par rapport à la carte hygiène, à 250 mètres de l'itinéraire, il peut y avoir un beau monument, que ce soit une chapelle, une fontaine ou un pont, et qu'en fait le guide de randonnée n'y va pas. Parce qu'il faut faire une boucle et que ça ferait faire un aller-retour de 200 mètres. Moi, mon objectif, ce n'est pas de faire une course contre la montre ou le temps, c'est de connaître le patrimoine, le lieu où je vis. Et je trouve que c'est effectivement intéressant d'expliquer tout ça. Donc, je raconte ces histoires de chemin. Alors, comme je venais hors de Bretagne, je vous ai montré quelques exemples de chemins qui figurent dans ce livre. Je l'ai passé très rapidement en revue. Le but, c'est qu'effectivement, on comprenne où on est. Et quand on sait, on a un peu d'éléments sur l'histoire du lieu, on éprouve un intérêt encore plus important pour ce lieu. Et ce lieu, on va le partager, on va le faire connaître. Par exemple, ici, vous avez une voie romaine à Ambroussoum qui se trouve à côté de Lunel, la région de Montpellier. Tout à l'heure, il y a une personne de PACA qui était par là. Ce qui est intéressant dans l'Ambroussoum, c'est que vous avez ici deux traits au milieu de cette voie romaine qui se trouve juste à la sortie de Lunel, en bord de l'autoroute qui relie Nîmes à Montpellier. Et ces deux traits, ils sont séparés par une distance qui correspond à des pieds celtiques, l'ancienne mesure gauloise. Et en un centimètre près, ça correspond à la largeur des voies de la SNCF. Voilà. C'est-à-dire que, petite anecdote, ça veut dire que à la fin du 19e siècle, quand les voies ferrées ont commencé à sortir en France, on a repris une distance, une mesure qui avait déjà disparu depuis longtemps, mais qui remontait à l'Antiquité. Voilà, petite histoire. Alors, là, j'ai vu que sur le programme, il y avait une personne qui venait d'Alsace. Elle va reconnaître forcément ce lieu, c'est le Donon. Moi, ce qui m'a intéressé sur ce lieu, c'est que c'est un chemin qui est à la fois un chemin qui correspond à la guerre 14-18, à la guerre 39-45, puisqu'effectivement, on est sur des lieux où il y a eu des batailles. Ce lieu était tenu par les troupes allemandes, les troupes du Kaiser, pendant la guerre 14-18, et parmi les soldats allemands, il y avait un sculpteur qui, à chaque fois qu'un de ses copains tombait, sculptait un rocher. Et donc, quand vous vous baladez sur les pentes du Donon, vous avez plein de rochers sculptés rappelant les soldats qui sont morts, pas pour la France ici, mais pour l'Empire. Mais je trouvais intéressant que ce chemin... Qui est aussi une ancienne voie romaine, et avant d'être une voie romaine, c'était une voie gauloise. Donc on a fait plusieurs époques qui se superposent, et quand on arrive au sommet du Donon, on a un magnifique temple qui a été reconstitué au 19e siècle, mais avec des stèles qui datent effectivement de la période gauloise, représentant un panthéon gaulois. Donc un autre exemple de chemin que je cite, c'est le chemin des Dames. Moi, en Bretagne, quand on parle du chemin des Dames, c'est systématiquement le chemin des Fées. Donc j'étais persuadé, mon grand-père avait combattu au chemin des Dames en 1917, que c'était effectivement le chemin des Fées. Et puis en fouillant dans l'histoire, non, ce n'est pas du tout le chemin des Fées. Ce sont les Dames de la cour de Louis XV qui allaient rendre visite à la dame de compagnie des filles du roi qui avait son château au chemin des Dames. Voilà, donc je raconte l'histoire de ce chemin effectivement à travers la guerre. Si on parlait de guerre encore, voilà la guerre des Boutons, Louis Pergaud, Belmont dans le Doubs, donc le chemin où effectivement Grand Gibus, Petit Gibus se sont mis quelques voletés. Pareil, c'est de raconter des histoires, de faire rêver, parce qu'on est dans une société où on zappe beaucoup et puis on oublie un peu de ce qui nous relie. Donc si on arrive à raconter des histoires, à faire rêver les gens, eh bien on ramène les gens dans la réalité, on les fait retrouver les chemins. Je vais aller un peu plus vite, hein, parce que voilà, Nedjobourg, un chemin intéressant, Nedjobourg, puisque c'est le chemin des contrebandiers, ceux qui faisaient la contrebande entre la Cornouaille britannique et le Cotentin en Normandie. Et en travaillant sur ce chemin des contrebandiers normands, je me suis rendu compte que on partageait avec les Bretons et les Normands, partageaient avec eux, et là je reviens en arrière sur un autre chemin. Je vais trop vite. Voilà. Ça, c'est le chemin des chouans Locolmadon. Alors, pourquoi je fais le rapport entre les chouans Locolmadon, les braconniers, les contrebandiers normands? C'est que le chouan, c'est le mot de la chouette, et le cri de ralliement, effectivement, des chouans vient de la chouette, qui était le code de ralliement des faussonniers avant la Révolution française. Donc, la chouannerie a repris comme structure tous les codes des faussonniers, et d'ailleurs, les premiers chouans étaient des faussonniers, ils étaient battus contre la ferme du roi et après ils se sont battus contre la République. Et qu'en Normandie, les contrebandiers qui travaillaient avec la Grande-Bretagne avaient aussi comme code la chouette. Et quand on regarde l'histoire de la Cornouaille britannique, les contrebandiers britanniques avaient aussi comme code de ralliement la chouette. Voilà, pour la petite histoire. Voilà, alors c'est une histoire de un pont du diable. Je raconte là l'histoire, pourquoi le diable, pourquoi le pont, des histoires de chemin. Et je voulais vous mettre cette photo, puisque c'est le guet de Mélusine à Lusignan. Donc là, pareil, je raconte l'histoire de ce chemin et création de Lusignan. Donc en fait, mon travail, moi, c'est d'essayer de relier le chemin, les hommes et l'histoire qui veut. Voilà, Saint-Saëns, et je terminerai par là, ça se trouve en Bourgogne, en Côte d'Or. Et c'est en faisant un guide de randonnée, un guide naturaliste pour une fondation, que je suis tombé sur ce chemin complètement oublié. Puisqu'on avait cette fondation pour laquelle je travaillais et pour laquelle je faisais la promotion par le biais d'itinéraires de randonnée, je passais à côté de ce territoire, et en discutant avec le maire de la commune, de la Marzelle, il me parle de ce chemin de pèlerinage qui reliait les sources de la Seine à l'abbaye Saint-Saëns en Côte d'Or, et qui était balisé de stèles médiévales sculptées avec Saint-Saëns qui chevauche son âne. Donc j'ai écrit un texte dans ce livre sur les chemins de France, sur le chemin de Saint-Saëns, et je suis bien content, puisque effectivement en Côte d'Or, eh bien ce chemin a ressuscité de l'intérêt, et enfin il y a un itinéraire qui a été balisé, donc on a là encore retrouver le patrimoine, et en retrouvant le patrimoine, en le partageant, c'est comme ça qu'on le sauvegarde. Voilà, donc, et dans la foulée, mon éditeur m'a commandé un autre ouvrage, celui qui s'appelle Sur les chemins des pèlerinages en France, qui vient de paraître la semaine dernière, où là, donc il est beaucoup plus thématique, il se rapproche de ma rote sur les pardons bretons, c'était effectivement, c'est comment partir sur les chemins. Pas simplement en allant à Lourdes en train ou en allant simplement à Compostelle, qui est un peu l'autoroute des pèlerins aujourd'hui, mais c'est comment dans toutes les régions on a de beaux sanctuaires, et ces sanctuaires représentent une histoire, et que donc il faut faire en sorte que ce patrimoine vive, et le chemin peut être une bonne opportunité effectivement de faire vivre notre patrimoine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci, Monsieur Rio, de nous avoir présenté, de nous avoir rappelé que le lieu pouvait faire lien, évidemment, et merci en tous les cas. On va terminer cette table ronde. Après, on enchaînera, on fera une petite pause de 5 minutes, et André interviendra finalement plus tôt dans la seconde, puisqu'il y a un intervenant qui n'était pas là. Mais je vais laisser la parole à Jean-Marc, s'il veut bien venir ici, pour nous parler justement des richesses de territoire, puisque c'est un peu ça la question. Tu abordes le sujet. Oui, peut-être des questions, oui, sur les chemins. Non ?
vous vivez finalement de l'édition ou alors vous avez un métier à côté? Parce qu'au début, je pense que vous ne deviez pas vivre de cette activité. Alors, est-ce que vous êtes rentier? Ce que, qui est une possibilité, voilà. Comment faites-vous pour concilier tout ça?
Quand j'ai quitté la presse, j'ai divisé mon salaire par deux. J'ai fait un choix, j'ai fait un choix économique pour pouvoir notamment voir mes enfants grandir et arrêter de travailler 15 heures, 17 heures par jour. Donc effectivement, d'abord, ça a été un choix économique, mais bon, il a été pensé. Donc j'ai réduit mes revenus, mais en réduisant mes revenus, j'en ai quand même assuré une partie, c'est-à-dire que j'avais conservé un pied dans la presse. Et donc pendant longtemps, j'assurais les fins de mois en écrivant des articles pour différents magazines qui pouvaient être bah, notamment des magazines de randonnée, hein, comme Randonnée Magazine, comme la Vie du Rail, Historia, etc. Et puisque moi, j'ai deux casquettes, l'environnement et le patrimoine, ce qui me permet de diversifier mes collaborations. Et petit à petit, en fait, j'écrivais ces ouvrages, et puis j'ai la chance que mes ouvrages se vendent bien, que les guides de randonnée se vendent bien. Il faut considérer en moyenne un guide de randonnée. Enfin, moi, quand je publie un guide de randonnée, c'est entre 20 000 et 30 000 exemplaires de tirage, hein, donc ce qui fait des revenus conséquents. Donc il faut effectivement gérer, quand on est indépendant, il faut gérer ses revenus, des droits d'auteur, ce qui n'est pas toujours facile, mais en lissant, et puis quand on marche, en fait, moi je regarde jamais ma montre. Quand je me lève le matin, je me suis levé tôt ce matin pour venir à Poitiers, c'est pas un problème. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui ont fondé des dépressions en allant au travail ou des burn-out. Moi, j'ai pas de problème de dépression, de burn-out, quoi. Donc je travaille beaucoup, mais j'ai pas souvent l'impression de travailler. C'est un paradoxe.
Merci voilà. Pour cette réponse. Merci, Monsieur Rio. Bien, Jean-Marc, à toi. Tu te prends par le bout que tu veux. Par quel chemin tu veux y aller?
Quel chemin? Donc Jean-Marc Neveu, je dirige deux entreprises qui sont basées à Châtellerault, CDA Développement et Ardatech. Notre métier, c'est de concevoir et de fabriquer des outillages pour l'industrie. Et ces outillages, en fait, ils servent à faire de l'injection plastique. Et l'injection plastique, ça sert à réaliser des pièces pour les tableaux de bord de voitures. Ça sert à faire des sièges d'avion. Alors peut-être vos sièges aussi un jour. Et de mettre en forme, en fait, toute forme d'objets qui seront utilisés par les êtres futurs. La particularité de cette histoire, on est dans l'histoire, donc ce chemin d'histoire, c'est que moi j'ai repris l'entreprise il y a 4 ans, et c'est une entreprise qui existe depuis 25 ans hein, sur le territoire châtelleraudais. Et elle était un peu à la croisée des chemins, puisque le créateur devait partir à la retraite et chercher un repreneur pour passer le flambeau. Et l'enjeu quand même, parce que c'est bien aussi de donner des enjeux par rapport à notre où on est aujourd'hui, hein. L'enjeu, c'était soit il y avait un repreneur, soit l'entreprise était liquidée. Et liquidée avec tout ce savoir-faire accumulé depuis 25 ans, cette confiance qu'il y avait avec un certain nombre de clients, cette connaissance un peu subtil de l'organisation sociale de cette entreprise. Et je crois que voilà, ça c'est un enjeu, à mon avis, important qu'on n'a pas dit ici. C'est que il y a peu de lieux, en fait, aujourd'hui où socialement on arrive à se retrouver et à créer ensemble. Voilà, je crois que pour les territoires, pour les écoles, pour on a du mal. On a ce besoin-là et on n'a pas de lieu pour le faire. Et je
crois qu'il faut, il faut penser très fort à ça, parce que la désagrégation des lieux où on peut travailler ensemble, c'est un risque pour notre jeunesse, c'est un risque pour nous aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est un risque systémique, j'ai entendu le nom tout à l'heure. Donc voilà, donc à la petite échelle de l'entreprise, il y avait ce risque de disparition. Et l'idée, c'est de dire bah voilà, comment on peut, à partir de bon, donc l'affaire s'est faite, j'ai repris l'entreprise et j'ai proposé aux salariés le chemin suivant. Je lui ai dit, bon, voilà, dans 4 ou 5 ans, j'aimerais, si vous en êtes d'accord, parce que je ne connaissais pas les salariés, moi j'étais complètement extérieur à l'entreprise, hein, je voudrais qu'on soit fiers du travail qu'on a fait. Voilà. Et fiers, simplement ça, être fiers du travail qu'on a fait. Et en fait, ce travail-là nous a conduit, enfin, cet axe-là nous a conduit aujourd'hui à être reconnus pour non seulement la qualité de notre travail, mais aussi notre capacité à pouvoir être dans l'innovation pour nos clients ou accompagner l'innovation de nos clients. Et alors, comment on a fait ? On est parti des salariés, en fait, eux-mêmes, de leur connaissance de ça, et on l'a éclairé avec l'histoire, chose qui est un peu paradoxale, mais enfin, qui semble un peu saugrenue. La première fois que j'ai proposé ça aux salariés, ils étaient un peu estomaqués. Je dis, on avait une connaissance qui s'appelait Florent Blin, qui est historien de l'art, c'est son métier. Et qui nous a dit, enfin qui m'a dit, voilà, Jean-Marc, pour commencer, je pense que ça peut être un bon départ de faire la visite de ton entreprise. Je vais te faire la visite de ton entreprise. Je dis, ah bon, y a des coins que je connais pas, des chemins qui sont secrets. Non. Et en fait, j'ai proposé ça aux salariés, ça a pris une demi-journée, on avait programmé ça, et puis on a coupé les machines, et il est venu dans l'entreprise, et il a dit, voilà, tous les objets qui entourent l'entreprise, pas forcément les objets techniques, hein, les machines, pas ça, mais le mobilier, par exemple, le mobilier, c'est issu de l'histoire longue de l'art, et de la matérialité de l'art. Il y a des chaises qui sont aujourd'hui, le design des chaises, c'est à l'origine des... pour certaines, les formes qu'elles ont aujourd'hui sont issues d'œuvres d'art qui ont été créées au début du 19e ou 20e. Et puis, on est remonté encore plus loin sur pourquoi il y a des armoires, pourquoi il y a des armoires plutôt que des malles. Voilà, parce que ça correspond à une époque de l'histoire où les gens étaient un peu mieux installés. Et donc, les armoires, à la place des malles, on pouvait s'installer, on pouvait les poser et les garder. Alors que les malles, c'était, on les transportait avec nous pour transporter nos vêtements. Pareil, pourquoi les gobelets ont des fonds plats ? Parce qu'on a inventé les tables, exactement, et les bols ne tenaient pas sur... Voilà. Tout un ensemble de choses pour dire que la création d'objets, puisque nous, on est concepteurs d'objets, hein, pour nos clients, mais on est concepteurs d'objets, c'est une activité qui est longue, c'est l'histoire longue de l'humanité. Et alors, l'analogie, c'est que on fait des kilomètres pour aller voir comment ont fabriqué les Gaulois leur vase, et on ne pense pas aller voir comment on fabrique aujourd'hui les objets en plastique. Je suis sûr qu'il y en a... Enfin, nous, on fait de nombreuses visites dans notre entreprise, et il y en a beaucoup qui sont surpris de la façon dont on fabrique les objets. On se pose pas, on les utilise, mais comment sont fabriqués les objets ? C'est pas trop. Et de ce fait, par cette analogie-là, on a rentré le temps court de production du métier, hein, de fabrication de tous les jours, dans un temps beaucoup plus long, qui est un temps où l'humanité s'est aussi développée par cette activité de création d'objets et s'est nourrie de ça pour s'humaniser en fait un peu plus. Alors on parle du digital, etc., mais on est quand même on est des êtres matériels et on a besoin de cette matérialité-là. Et en parlant de ça, en fait, avec cette analogie-là, les gens ont compris qu'ils étaient dans une longue histoire, en fait, et que peut-être que dans 50 ans ou 200 ans, on viendra visiter les ruines de cette entreprise et se dire, ben voilà, c'est là où on fabriquait des objets en plastique à l'époque. On a couplé ça, cette première visite, en fait, avec une deuxième expérience, qui est une expérience artistique, pour enfoncer bien la chose. On a fait venir un artiste photographe qu'on a choisi, qui s'appelle Julien Michaud, peut-être que certains connaissent. Ah, il y a l'expo qui est juste derrière, donc vous pourrez aller voir une partie de son travail, qui a passé une semaine dans l'entreprise, à photographier en fait l'activité, c'est-à-dire ce qu'on fait tous les jours, et puis donc les personnes, et pas le résultat, mais la façon dont on fabrique les choses. Et l'art était, on a parlé de l'art tout à l'heure ce matin, est une bonne façon de créer en fait, du beau, en fait, cette valeur de beau esthétique en fait. À ce qu'on fait, quoi. C'est une fonction, à mon avis, importante de l'humanité, d'esthétiser ce qu'on fait. Enfin, voilà. Et tout l'enjeu, c'est de ne pas esthétiser tout et n'importe quoi, justement, mais d'esthétiser des choses qui sont dans le temps long. Et il a passé une semaine à discuter avec les gens, avant d'arriver à prendre des photos, comme on fait pour la Tour Eiffel. Mais il a passé du temps à discuter avec les gens, et du coup... La capacité de l'art, c'est aussi de rendre compte d'une réalité de travail qui est beaucoup plus importante que la photo qui peut être prise en 5 minutes. Et à partir de ce travail-là, on avait donc un fonds documentaire de photos, il y avait presque 2000, je crois. Et on a fait travailler donc les salariés. On a mis des planches contact partout dans l'usine et on a donné des gommettes aux salariés pour qu'ils choisissent les photos qui étaient les plus représentatives de leur travail et certaines. Alors c'est marrant parce que je dis ça tout à l'heure, je fais la remarque à Yvette là-dessus. Ils ont choisi celles qui étaient le plus intéressantes. Et reflétant vraiment le caractère à la fois beau, une espèce de synthèse entre quelque chose de beau et une forme de réalité de leur travail. Et à partir de là, on a eu donc on a créé un album photo. Et j'ai eu souvent la question, mais pourquoi, à quelle destination vous avez fait ça? Ben, je dis pour nous-mêmes déjà. Pour nous-mêmes, c'est quelque chose, un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes par rapport à notre travail et puis, par rapport à ce projet dont j'ai parlé tout à l'heure, de dire on estime le travail. D'abord parce que je pense qu'on ne peut pas valoriser le travail auprès de quelqu'un si on n'a pas une bonne image du travail qu'on fait tous les jours. Il n'y a pas de qualité de travail sans travail de qualité. Voilà, donc, et puis cet axe-là, on l'a continué puisqu'on a fait donc, l'expo que vous verrez là-dessus. Et qu'on a présenté pour avoir un prix d'innovation sociale. Voilà, ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui ancré dans l'entreprise. Donc si vous venez visiter l'entreprise, vous verrez des photos un peu partout, des gens qui travaillent, des résultats du travail, mais aussi... Et ça donne une connotation un peu particulière sur... là, on ne se pose plus les questions pour savoir pourquoi on est là. On est là, bien sûr, parce que... Alors, l'analogie avec l'art, c'est il y en a plusieurs. Il y a d'abord la matérialité, en fait. Hein, on est confronté, nous, transformateurs de matière, à la matérialité, à la difficulté de comprendre certains phénomènes de transformation de la matière. L'artiste, il se confronte aussi à une certaine forme de matérialité. D'un point de vue social, on est aussi obligé de s'entendre, hein, avec... d'avoir une organisation. Et puis, le stade ultime, c'est créer ensemble. Voilà. Et l'œuvre collective, c'est l'œuvre artistique, c'est une création, qu'elle soit effectivement collective ou pas collective. Mais nous, dans notre cas, c'est quand même quelque chose de collectif. Je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres, en fait, d'artistes qui sont collectives. On pourrait dire qu'il n'y a pas d'œuvre individuelle, d'ailleurs. Et avec cette analogie-là, en disant ce qu'on fait tous les jours, ce sont des œuvres d'art et on le fait avec la matérialité qui est difficile, avec des relations sociales qui peuvent être difficiles, parce que le monde est ainsi fait aujourd'hui. Et puis, par contre, on se sacrifie pour l'œuvre. Mais voilà, on a un retour parce qu'on a quelque chose d'estimable pour nous-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui fonctionne plutôt très bien. On est positionné et on comprend parfaitement la dynamique et ce qu'on peut apporter à nos clients. Et nos clients, aujourd'hui, il n'y a pas de démarche commerciale. C'est nos clients qui veulent travailler avec nous, ou comme des gens qui veulent travailler avec des artistes et qui nous passent des commandes comme à des artistes. Et en plus, on a la particularité, d'être dans des petites séries, c'est-à-dire qu'on fabrique des séries limitées d'objets, notamment pour les intérieurs d'avions. Et la mode change dans les intérieurs d'avions, donc on change de couleur souvent. Voilà. Donc on est assez proche en fait de la mode, d'une mode industrielle. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Après, on continue à mixer, à hybrider. Moi, j'aime bien le terme hybride, hein, de dire que l'activité économique... j'ai été président du Centre des jeunes dirigeants, donc la vision qu'on a de l'entreprise, c'est une vision de mettre l'économie au service de l'homme, où on a bien sûr une attention particulière à l'économie, parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans économie, il n'y a pas d'organisation sans économie. Après, on peut discuter comment on va le faire, mais d'économie, il n'y a pas d'organisation sans relations sociales équilibrées, hein. ça aussi, c'est une performance sociale, une performance aussi environnementale, et puis une performance sociétale, c'est-à-dire l'engagement de l'entreprise dans sa société. Et à travers ces piliers-là, on développe, nous, tout un tas d'actions. Donc on a contribué récemment à pouvoir diffuser de la musique classique, puisqu'il y a un festival à Châtellerault, qui s'appelle le festival d'automne. Oui, c'est ça, automne musical, pardon. Ils avaient un problème parce qu'ils ont rénové donc un théâtre à Châtellerault à grands frais. Et en fait, les personnes qui y vont, c'est toujours les mêmes personnes en fait. C'est les personnes qui ont un certain niveau de revenus et puis des gens qui sont d'un certain âge. Donc en fait, on fait des concerts pour des gens qui n'entendent pas bien. Et moi, je leur ai proposé de dire faites plutôt des concerts pour tout le monde. Enfin, l'art il est ouvert, c'est ça. La diffusion de l'art, faut pas. C'est ça qui est intéressant. On a cette sensibilité-là en nous, tout le monde, je crois. Et voilà, ça nous élève. Et donc, du coup, on a fait un concert de musique classique dans l'usine entre midi et deux. Donc, il y a un quatuor de saxophone qui est venu de Paris, d'ailleurs. Et il y avait plus de 70 personnes. Et je pense qu'il y en a pour une grande partie n'avait jamais écouté de musique classique en direct, en fait. Et on a détourné en fait le lieu de l'entreprise pour devenir une salle de concert. Voilà. Je pense que c'est ça l'esprit, c'est de dire il y a des possibilités qui sont faites à partir du moment où on a une représentation différente de ce qu'on fait et pourquoi on le fait, où on pense les choses. Moi, je voudrais peut-être terminé, sur quelque chose qui aujourd'hui me pose question, c'est la question de l'innovation. On parle tout le temps de l'innovation, sous-entendu, on est pour ou contre. Est-ce que l'innovation aggrave les inégalités? Est-ce que l'innovation, est-ce qu'elle est soucieuse de l'environnement, etc. Moi, j'aimerais vous interpeller là-dessus, sur l'innovation en termes d'inclusion. On parle de ça. Est-ce que les innovations telles qu'elles sont posées aujourd'hui, elles servent à résoudre des vrais problèmes, les vrais problèmes des personnes ou de l'environnement, ou elles sont en fait un peu artificielles et elles servent à être remplacées le lendemain par une autre innovation qui ne sert à rien? Cette question de l'innovation est importante parce que je crois qu'on n'a plus les moyens de faire de l'innovation pour l'innovation. Enfin, voilà, il faudrait penser l'innovation et les dispositifs d'innovation ou de soutien à l'innovation dans ce qu'elles ont d'inclusive par rapport aux personnes, par rapport à l'environnement et par rapport à une certaine forme de durabilité des choses. Et ça pourrait être un des axes majeurs de développement et de pensée de notre prochaine génération, de penser l'innovation en termes d'inclusion et pas justement de moyens pour détruire un peu plus l'environnement ou détruire un peu plus les relations sociales ou le patrimoine. Voilà. Donc c'est une question qui est ouverte.
Merci pour cette ouverture. Jean-Marc, et je vous invite, si vous le souhaitez, on fait en accord avec Jean-Marc une visite à peu près tous les mois et demi dans l'entreprise. Ça dure une heure et demie, et ça permet une discussion. Alors c'est des petits groupes très divers. Hein. On a eu des profs de latin, on a eu quelqu'un de la musique classique, on a une association d'insertion. Enfin voilà, c'est très ouvert, très éclectique. Donc si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas, vous nous le dites et on vous invite. Mais il y a des questions.
Merci. Alors depuis hier, j'ai évolué un peu de jeune retraité. Alors, je suis toujours Jean-Jacques Latouille, mais de jeune retraité en écoutant André. Je suis devenu chercheur libre et indépendant. Ce sera sur ma carte de visite. Bon, j'ai été très intéressé par votre propos conclusif sur la place de l'innovation dans une société inclusive. Alors, on pourrait en parler beaucoup et ça pourrait être un thème de travail pour cet atelier. Finalement handicap, innovation et territoire et créativité. Effectivement, alors j'ai cru voir dans les articles que je lis que la notion d'éthique commence à apparaître un petit peu dans la formation des ingénieurs et plus généralement dans l'innovation, parce que je me posais la question il n'y a encore pas très longtemps à partir d'un reportage. La voiture autonome, c'est vachement bien. Qui va mettre mon bagage dans le coffre? C'est à la fois un vrai et un faux problème. Mais je voulais surtout vous poser la question de la relation entre la façon dont vous concevez l'entreprise et les lieux de formation. Comment est-ce que vous voyez la possibilité de créativité dans les lieux de formation et à partir d'une stimulation qui viendrait de l'entreprise?
Alors je reviens juste sur la remarque précédente. Vous avez tout à fait raison. Moi, ma crainte par rapport à ça, j'ai cité juste un exemple sur l'innovation technologique. C'est aujourd'hui ce qu'on entend partout, le manque de gens qui sont, le manque de possibilités de recruter, notamment des experts, des techniciens, etc. Juste un exemple, une société d'ascenseurs a comme projet d'équiper en fait les gens qui interviennent dans les ascenseurs qui tombent en panne avec des masques de réalité virtuelle. Bon, jusque-là, tout va bien. Enfin, de réalité augmentée. Voilà. Et donc, on aurait des gens qui grimperont sur les ascenseurs et grâce au masque de réalité, là, il y aura un expert qui sera situé on ne sait pas où, qui lui dira prends le bouton gauche, appuie le bouton droit, etc. Et le danger, c'est que il y a une décorrélation entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et là, pour le coup, on aura un vrai risque. On voit bien qu'une innovation peut contribuer à complètement éclater la société et revenir à des temps anciens où il y avait ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Donc ça, c'est vraiment parce que les entreprises vont continuer à franchir le cap. S'ils ne trouvent personne, ils vont y aller là-dedans. Faut pas se leurrer. Alors par rapport au centre, à la formation, nous sommes un centre de formation, en fait. Aujourd'hui, dans les métiers de la plasturgie, les gamins, ils viennent d'Amboise, ils viennent du Blanc, ils viennent de Rochefort. Ils font des kilomètres et des kilomètres pour se former, en fait. Hein. Donc l'entreprise devient un centre de formation permanent. Alors nous, ça nous intéresse parce qu'ils nous font des retours permanents sur la façon dont on fonctionne, ce qu'on peut apporter. Ils apportent aussi leur jeunesse, leurs idées, hein, leur créativité. Et puis, et donc l'entreprise devient un centre de formation, mais elle n'a pas vocation à ça, mais elle l'est de fait. Et puis l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne mettrait pas à côté de l'entreprise un complément, c'est-à-dire des professeurs, de l'hébergement, des choses comme ça, et parce qu'il y a aussi des problèmes d'hébergement sur nos territoires qui sont un peu éloignés, on n'est pas à Paris, et qui va héberger ça? Sauf que c'est pas du tout structuré comme ça. En fait, on a des pratiques aujourd'hui de formation, des pratiques de création qui sont pas du tout dans les codes de l'éducation nationale, qui sont pas du tout où on a plutôt tendance à centraliser maintenant, et ça va s'accentuer plutôt qu'à décentraliser. Donc il faut trouver des moyens pour qu'on puisse être un peu fluide entre des organisations, entreprises, je ne sais pas, du quatrième type, qui soient des entreprises où il y a de la formation, où il y a de l'art, où il y a des choses comme ça, et puis des grands centres financiers qui financent une partie de ça, qui contribuent à ça, et qui ne financent pas simplement leur fonctionnement, mais qui puissent fonctionner réellement les missions sur lesquelles ils sont payés pour faire ça, théoriquement.
Bien, merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vous propose une pause de... Oui, s'il y a une question, on la prend. D'une pause de 5 minutes et on essaie de reprendre à 45 pour terminer à 12h30 en étant optimiste.
Merci Jackie. Yves Luçon, je suis intervenant en thérapie sociale. Mon métier, c'est de contribuer à rétablir la coopération dans des groupes qui sont traversés par des tensions, des peurs et des séparations. Pour permettre justement à des gens de faire ensemble en fonction de leur motivation profonde. Et j'ai beaucoup aimé aussi votre conclusion. Et vous avez dit aussi en introduction, la société d'une certaine façon se meurt, enfin c'est comme ça que je l'ai compris, de ne plus avoir de lieu pour travailler ensemble. Alors moi je rajouterais de ne pas avoir trouvé encore, en tout cas elle ne s'est pas encore généralisée, une approche qui permet à des gens qui ne se parlent plus, qui n'arrivent plus à se parler, enfin à travailler ensemble, justement parce qu'ils ne se connaissent plus, parce qu'ils sont divisés. On est dans une société divisée aujourd'hui. Juste un petit exemple pour illustrer ça. J'ai habité en Auvergne. Alors moi, aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle des analyses de pratiques professionnelles. Mais j'aimerais vraiment justement travailler dans des collectivités, des territoires. En Auvergne, il y avait un élu qui aujourd'hui a mis en place un Fab Lab. Son Fab Lab, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait refaire une enseigne dans le Fab Lab. Au Fab Lab, ils l'ont envoyé balader en lui disant non, c'est pas intéressant. Et ils sont complètement repliés sur eux-mêmes. Ils ont la super imprimante 3D qui vaut 100 000 euros, peut-être, je sais pas. Mais ils font rien. Ils font rien avec le territoire. Et moi, je me dis, s'il y avait eu, par exemple, un groupe de citoyens, de gens, avec des artisans, avec des gens très divers qui se seraient réunis pour vraiment comprendre, cerner les vrais besoins du territoire en termes de fabrication d'objets pour répondre à des besoins du territoire, on n'aurait pas acheté l'imprimante 3D à 100 000 euros qui sert à rien. Enfin, c'est ça que je pense. On aurait fait un Fab Lab low-tech, comme on dit, c'est-à-dire avec les moyens du bord, avec les compétences artisanales des gens, etc. Donc, moi, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble, mais comment vous voyez ces fameux lieux où on pourrait travailler ensemble à répondre aux vrais besoins de la société, qui ne sont pas forcément de faire des pièces d'avion, quoique, justement, c'est bien que vous fassiez des pièces d'avion et que vous développiez la richesse économique du territoire. Mais moi, je vois à long terme et je me dis, est-ce que le fait de construire de plus en plus d'avions, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est vers ça que la société doit aller, ou est-ce que le fait d'aller de plus en plus à l'autre bout du monde, est-ce que c'est pas une compensation à cause de nos manques de liens, d'amour entre nous, entre voisins, dans les villages? Bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, comment une société comme vous et un chef d'entreprise comme vous voyez les choses et comment on pourrait inventer des lieux de faire ensemble qui répondent à des besoins locaux et comment on pourrait développer des activités locales qui répondent à nos besoins.
Ah, merci pour cette question. Effectivement, là, on est complètement dans le mythe des start-up. Hein. J'ai entendu ce matin qu'on parlait de start-up, mais il faut arrêter, ça coûte du pognon, un pognon de dingue, c'est, c'est, ces bêtises-là. C'est des lieux qui sont vides. Les technos qui sont déjà mises en place, elles sont déjà dépassées avant d'être mises en place. C'est vraiment du gaspillage d'argent public. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de faut passer en mode économie de pauvre. Alors, l'économie de pauvre, c'est quoi ? C'est la coopérative, en fait, hein, la coopérative agricole. Et l'idée, c'est de dire... Alors, ça fait longtemps que je prône là-dessus, de faire un blablacar industriel. C'est-à-dire que la collectivité ne devrait financer qu'un objet, ou qu'une machine, ou qu'un équipement, qu'à la condition qu'il soit partagé ou partageable. Voilà. Qu'il ne soit pas mis dans un lieu, d'abord, créé de toutes pièces, mais qu'il soit dans une entreprise ou un labo, mais qu'il soit ouvert et qu'il soit financé à la condition qu'une partie de son temps, en fait, soit allouée à soit d'autres publics, soit etc. Et on réfléchit ensemble sur ce besoin-là. Enfin, c'est une manière de répondre à votre question, de dire voilà quel usage on pourrait faire de cet objet-là, sachant qu'aujourd'hui l'idée c'est qu'il y a du temps en fait. Hein. Il y a du temps, la machine ne sera pas occupée à plein temps. Et puis deuxièmement, il y a une part qui me paraît encore plus, cette part de formation. On parlait, la machine, ça va être aussi un moyen de former. Qui des enfants qui viendront, du grand public, d'un autre chef d'entreprise qui ne connaît pas la techno. Parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est un truc de fou, quoi. La technologie va tellement vite que personne ne maîtrise complètement les objets, enfin, même les imprimantes 3D. J'étais avec un gars qui fait de l'impression 3D depuis 30 ans. Hein. Ben, lui-même, il dit ça, cette techno-là, j'ai arrêté de la faire parce que c'est trop compliqué. Voilà. Oui. Donc, vous imaginez, trois pimpins dans un local, c'est une hérésie. Donc, je pense qu'il faut se poser cinq minutes sur dire quel est le besoin et comment on finance du besoin qui peut être partageable, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens de s'acheter. Chacun sa gare TGV, j'allais dire ici, mais c'est déjà fait. Chacun son aéroport, ou chacun, etc. Il faut essayer d'économiser l'argent, et en économisant l'argent, on gagne quoi ? On gagne cette discussion sur un moyen ou un besoin qu'on n'avait pas forcément identifié. Et il faut diminuer un peu son ego pour pouvoir travailler ensemble. Hein. Enfin, voilà. Donc, encore une fois, l'argent public ne devrait pas être dépensé sans concertation avec les utilisateurs finaux. C'est une hérésie de faire ça. Et du coup, si on a un mur qui existe, on aurait aussi des projets qui pourraient se mettre dessus, hein, des projets qui sont, on pourrait mettre les initiatives en fonction du degré de réalisation et les difficultés, les moyens qui pourraient être mis à disposition pour réaliser ces projets-là. Hein. On pourrait d'un côté avoir les projets, de l'autre côté les moyens mis à disposition par les chefs d'entreprise ou par d'autres. Hein. Donc moi, je pourrais mettre à disposition des moyens de presse. Et à ce moment-là, on pourrait corréler en fait des besoins qui sont déjà... Donc il n'y a pas besoin d'investir, pas besoin de consommer encore, mais d'utiliser, comme le Blablacar, des capacités machines qui soient étendues sur un territoire. Hein. Ça, c'est ma grande théorie. C'est-à-dire, le matin, on pourrait, tous les chefs d'entreprise pourraient appuyer sur un bouton et ils verraient la disponibilité totale des moyens sur sa zone industrielle, la cabine de peinture de Tartampion, elle est disponible, etc. Et alors, chose rigolote, je vais m'arrêter après, Jackie. Dans le Châtel Rodet, j'ai appris ça ce matin ou hier soir, je ne sais plus. Les grands groupes, en fait, tout le monde avait les clés de toutes les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises, on se donnait les clés, on allait dans l'entreprise pour utiliser donc l'atelier de peinture parce qu'on avait besoin de finir une pièce. Et, ah oui, il y avait un besoin urgent qui tombait. Ben on savait qu'il y avait l'atelier de peinture qui était disponible. Donc on allait, on avait les clés, on y allait. Et puis le lendemain, l'activité de peinture continuait, mais on avait fait les pièces et on pouvait livrer le client. Vous voyez ? Donc en fait, on réinvente rien. Simplement, on le met en lumière et on dit, voilà, il y a des moyens, il y a du savoir, mais il faut changer le mode d'organisation et le mode de valorisation de cette organisation-là.
Merci, Jean-Marc. Sauf si vraiment elle est importante, Pierre, pour toi.
Bien sûr qu'elle est importante.
Mais tu pourras discuter avec Jean-Marc en... Non, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Après...
on décrit, c'est ce que décrivent, ce que tu étais en train de dire, c'est ce qu'on décrit beaucoup dans la Silicon Valley au début, quand les gars allaient, ils n'avaient même pas besoin d'aller choper les clés, ils allaient les uns chez les autres, ils donnaient les services, voilà. Et ils disent que maintenant c'est terminé, qu'ils ne peuvent plus y arriver, qu'au contraire, toutes les boîtes ont soigneusement fait attention à recloisonner tout. Et comment est-ce que tu vois ce risque par rapport à... Est-ce que les grandes entreprises du Châtel-Rodet ont aussi fait l'évolution qu'on décrit pour la Silicon Valley? Est-ce qu'on peut l'éviter? Enfin voilà, est-ce qu'on peut...
Enfin, il n'y a rien d'inéluctable dans la vie, hein, à part la mort, mais c'est vrai que c'est un enjeu. C'est soit on se ferme, soit on s'ouvre. Mais la difficulté, c'est que quand on est pauvre, on n'a pas les moyens de développer tout seul. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Donc, ça veut dire que la Silicon Valley, peut-être que les grosses boîtes, elles ont atteint un seuil tellement important qu'elles ont besoin de personne, et encore, puisqu'elles rachètent des entreprises, c'est qu'elles ont bien identifié les besoins. Donc, c'est un moyen de pallier aux besoins. Mais nous, PME, TPE, qui constituent 81% des entreprises de France, on a besoin des uns et des autres, quoi. C'est d'une évidence. Enfin, pour moi, c'est évident. Pascal Chauchoin, peut-être qu'il dira la même chose, mais les entreprises n'ont pas des tailles suffisantes aujourd'hui, et compte tenu de la rapidité de l'évolution technologique, d'autant plus, on n'a pas les moyens de se développer là-dessus. Donc on est presque naturellement obligé de faire des alliances, en fait, hein, donc d'ouvrir nos portes, sinon on va complètement disparaître. Hein, ça c'est... Et puis l'intérêt du travail est aussi ça, c'est dans la rencontre avec les autres. C'est pour ça que je fais ce métier. Hein. C'est pas pour rester, pour pas fermer les portes, quoi, justement.
Merci Jean-Marc. On se donne 3 minutes, pas plus, hein, parce que après, ça sera du temps à moins pour Frédéric Forté, qui est à côté de toi. Donc tu t'excuseras auprès de lui, Pierre. Et puis André et Franck.